Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans les débats d'Europe Soir. C'est un sondage, mais il est significatif de ce qu'une course à la présidentielle, même si elle n'est que dans 6 mois et demi, est révélatrice de surprises, de sursauts, de soubresauts. Éric Zemmour est donc donné à 15% d'intention de vote au premier tour. Il gagne face au candidat de droite classique dans tous les cas de figure, contre Michel Barnier qui est à 11%, contre Valérie Pécresse qui est à 12%, contre Xavier Bertrand qui est à 14%. Il siphonne donc les votes des LR, il siphonne aussi les voix du RN, ramenant Marine Le Pen à 16%, alors qu'elle reste à 25%, équivalente à Emmanuel Macron, dans l'hypothèse où Éric Zemmour ne se présentait pas. Le coup de grâce à Marine Le Pen étant la déclaration de son père ce samedi: si Éric Zemmour est le candidat national le mieux placé, je voterai pour lui et ferai campagne pour lui, lance sans pitié Jean-Marie Le Pen. Dans la foulée de ce sondage, Éric Zemmour est parti en meeting à Lille. Je dis meeting, car même si c'est une dédicace de son livre, sur le papier, c'est un véritable meeting avec prise de parole en public, 1500 personnes au Grand Palais. Zemmour jusqu'où? Zemmour jusqu'à quand? On en parle pendant toute cette première heure jusqu'à 19h. Je parlais de ce sondage Ipsos, c'est vrai qu'il occupe beaucoup nos esprits ce week-end. Pas mal d'enseignements puisque cette étude nous donne une perspective avec et sans Zemmour candidat. Et on voit qu'à gauche, bah c'est la descente aux enfers. Hein. 5,5% pour Anne Hidalgo dans tous les cas de figure. 1,5% pour Arnaud Montebourg. Entre 9 et 9,5% pour Yannick Jadot. Elle est où la gauche? Elle est verte? Elle est verte ou est-ce qu'elle est insoumise? Puisque Mélenchon est à 9% aussi. On en parle tout à l'heure à 19h15. Sans oublier l'AREM qui est en congrès ce week-end. Rendons quand même à Macron ce qui est à Macron. Il reste devant dans ce sondage, dans tous les cas de figure, entre 24 et 26% au premier tour. Les deux seuls cas, et ça c'est intéressant aussi, on le verra tout à l'heure, où il est derrière Marine Le Pen, c'est sans Zemmour, et dans les cas où Bertrand ou Pécresse sont les candidats des Républicains. Puisqu'on parlait de bain de foule avec Éric Zemmour, il y en a un qui a pris un bain de foule ce matin, c'est Nicolas Sarkozy, dédicace à la librairie Lamartine dans le 16e à Paris. Serein, combatif, déterminé, les gens ne sont pas dupes, a-t-il lancé. Nous l'entendrons et nous commenterons ses déclarations qui sont, insistons là-dessus, les premières depuis l'annonce de sa condamnation dans l'affaire Big Malion. Voilà pour le programme, abordé ce soir par Christian Proutot, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur du GIGN, par Alexandre Devecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Confrère du Figaro et Patrick Caram, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de Libre et vice-président de la région Île-de-France, on attend d'un moment à l'autre. Aurélien Taché, député du Val d'Oise. Dans l'actualité de ce samedi également, à noter cette alerte météo sur 22 départements. Vigilance orage, pluie, inondation ou orage et vent violent. Ça concerne une grande partie du nord-ouest jusqu'à Paris et 4 départements du Gard au Rhône. Il pourrait tomber jusqu'à 80 mm d'eau par endroit. Ce alors que les Alpes-Maritimes commémorent ce week-end le drame de la tempête Alex l'année dernière dans les vallées de la Roya et de la Vésubie. 18 personne était décédée. La mort de Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, à l'âge de 69 ans. Il était avocat également, cofondateur. Il avait défendu le cofondateur du groupe armé d'extrême gauche Action Directe, Jean-Marc Rouillant. Le sport avec le foot, 9e journée de Ligue 1. Montpellier et Strasbourg s'affrontent en ce moment. Tout à l'heure, c'est Nice-Brest à 21h. Mais il est 18h.
Soir week-end, 18h, 20h,
Pierre de Villeneuve.
18h et l'actualité du jour, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour en dédicace, à nouveau, on appelle ça une dédicace de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot » à Lille, au Grand Palais, dédicace où l'attendaient 1500 personnes. On va tout de suite rejoindre Maximilien Carlier à Lille. Maximilien, dédicace, moi je veux bien, mais ça ressemblait quand même pas mal à un meeting, non?
Ah oui, clairement, à l'entrée de Lille Grand Palais, on voit encore des jeunes avec des t-shirts blancs Zemmour 2022. Il y a un stand également avec mug, poster, photo de l'essayiste. Là, la séance de dédicace continue. Elle a commencé il y a une heure et demie environ. On a entendu beaucoup de allez, courage pour 2022. On vous soutient, monsieur Zemmour. Il faut savoir que 1600 personnes se sont réunies ici à Lille. Il y a eu plusieurs centaines d'heures calées car c'était complet. Dans l'auditorium, j'ai vu beaucoup de jeunes qui venaient de la métropole lilloise, des jeunes qui venaient du bassin minier. dernier, des déçus de Marine Le Pen, des anciens fionistes, des ex-adhérents de Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors bien sûr, il y avait aussi quelques curieux. Éric Zemmour qui a abordé la mondialisation, le chômage dans le Nord, la solidarité nationale, l'immigration. Séance de questions-réponses ensuite, mais pas d'annonce au sujet de sa candidature. « Je ne suis pas encore candidat », insiste-t-il, « mais le sondage révèle quelque chose, mon discours est entendu, c'est le signe que les gens veulent que je sois candidat. »
Merci beaucoup Maximilien Carlier pour avoir balayé ce meeting, on peut appeler ça un meeting. Il y a un peu de tout hein, dans ce rassemblement, qu'a dit Maximilien, des déçus de Marine Le Pen, des anciens de Debout la France, des jeunes. Comment est-ce que vous réagissez à ce... Patrick Caram.
On peut toujours se rassurer en disant que ces sondages-là, 7 mois de l'élection, ça ne veut rien dire. On pourrait dire que Giscard d'Estaing, 7 mois de 1981, était réélu dans un fauteuil. Balladur, Jospin, effectivement, on pourrait multiplier les exemples. On pourrait dire aussi que Chevènement a été une grande surprise de 2002. Il a fait 15%. Mmh. Il était à 15% quelques mois avant et puis il a fini à 5%. Simplement, Zemmour est parti à 3%. Il est aujourd'hui à 15% et on peut observer un phénomène assez particulier de croisement des courbes avec Marine Le Pen. Plus il monte, plus Marine Le Pen descend. Moi, j'attends avec impatience le moment où il va vraiment croiser la courbe avec Marine Le Pen. Le vieux menhir a déjà dit qu'il soutenait Éric Zemmour. Attention à Marion Maréchal Le Pen. Le jour où elle se prononce, ça risque d'être compliqué pour Marine Le Pen.
Alexandre Devecchio.
Oui.
C'est toujours un temps de latence. Hein, c'est réfléchir, mettre ses idées en ordre.
De mettre mes idées en ordre, effectivement.
Non, mais sur le meeting déjà, parce que Patrick Caram a foncé droit devant là, sur le sondage. On va le décortiquer. D'ailleurs, j'ai un peu donné les tenants, les aboutissants en préambule. Mais sur ce meeting, comme ça... À brûle pour point, 1500 personnes.
C'est la preuve qu'il n'a pas seulement des sondages. Il y a aussi des gens qui se déplacent. Ça peut rappeler d'ailleurs Emmanuel Macron, il y a 5 ans, on avait observé qu'il y avait une forte présence dans les meetings. C'est intéressant aussi parce que c'est dans le Nord, donc c'est un endroit où il y a un électorat plutôt populaire. On a vu aussi qu'il y avait des jeunes. C'est peut-être l'électorat qui a perdu effectivement une partie de la droite depuis des années, alors qu'il l'avait laissé effectivement à Marine Le Pen, et aujourd'hui Éric Zemmour est en train de le récupérer, mais je pense que la droite devrait s'interroger pourquoi elle ne s'adresse plus qu'aux retraités, hein. C'est la grande majorité des électeurs de droite, à quelques CSP+, en plus disputés par Emmanuel Macron, pourquoi elle a perdu les classes populaires qui étaient une grande partie de son électorat à l'époque du RPR, les jeunes également. Voilà, c'est la question que pose Éric Zemmour. Malheureusement pour les forces traditionnelles, je disais la droite, mais aussi la gauche, même si ce n'est pas cet électorat-là qui s'adresse, mais qui a perdu aussi beaucoup de sa base électorale, il est un peu tard. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement aujourd'hui de paradigme et que les vieux partis sont en train de mourir.
Christian Proto.
Moi, j'aimerais pouvoir dire que, et peut-être avoir raison, ce qui ne serait sûrement pas le cas, mais au moins je le dis, qu'il y a un phénomène également d'engouement autour d'une personnalité dans un vide politique sidéral de l'autre côté, et que du fait que la personne attire les médias, parce que les médias ont besoin, on va dire que je dis les médias et que c'est gênant, mais les médias, malgré tout, font le relais de quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, face à un vide sidéral, forcément, ça attire. Cela dit, la droite de la droite se cherchait un leader et peut-être elle l'a trouvé. Ouais. Et à ce moment-là, c'est là que ça pose au niveau de la possibilité qui pouvait sembler simplement épisodique d'une situation actuelle, le remplacement de quelqu'un. Et à ce moment-là, le leader cherché par la droite de la droite.
Alors, on va écouter justement Éric Zemmour lors de ce meeting.
Je vais continuer à dire la même chose, voyez. Moi, il y a deux catégories de gens pour moi. Ceux qui se contredisent. J'ai expliqué à M. Mélenchon qu'il l'a reconnu, qu'il avait cessé toute sa vie de se contredire. Et les gens qui radotent, les gens qui se répètent. Moi, je suis de la catégorie des gens qui se répètent. Et je préfère, parce que je pense que j'ai eu raison et que je continue à avoir raison. Et vu l'enthousiasme et les sondages dont vous me parlez, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai eu raison et que j'ai raison. Donc je vais continuer à dire la même chose. Je ne vais pas édulcorer mon discours. Je me fous de la diabolisation. hein, parce que la diabolisation, c'est vous qui la fabriquez. Donc je m'en fous complètement, je vous préviens d'avance. Moi, je tiendrai mon discours, quelles que soient les réflexions des médias et des bien-pensants.
Voilà, vous parliez des médias. Là, au moins, Christian Proutot, il y va fort. Il dit « je me fous de la diabolisation ou de la dédiabolisation ». En tout cas, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, il dit « je vais dire la même chose de ce que j'ai dit ». Et donc, parmi les choses qu'il a dites, notamment au grand rendez-vous d'Europe 1 dimanche dernier, il y a les fameuses explications sur le régime de Vichy. Comment, alors, je vous pose la question à tous les trois. Comment est-ce que... Non mais, je sais qu'on parle beaucoup de ça, mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait des jeunes de 18, 19, 20, 24 ans qui suivent Zemmour et qui, du coup, de facto, adhèrent à ce discours?
Alors, il a dit effectivement qu'il s'en foutait de la diabolisation. Mais il a dit aussi, je l'ai entendu, qu'il en avait marre de parler des prénoms et de Pétain et qu'il n'en parlait plus, puisque c'était un débat historique.
Donc c'est peut-être quelque chose qu'il ne va pas répéter.
Je pense que c'est quelque chose qu'il ne va pas répéter. Ouais. Et je ne pense pas que l'engouement autour d'Éric Zemmour soit un engouement sur ces questions-là. Je pense que c'est plutôt sur les thématiques de l'immigration, de l'identité, parce que les jeunes...
Oui, mais ça veut dire qu'on se bouche les oreilles aussi sur ces thèmes-là. Quand on dit que Pétain a sauvé les Juifs français pendant la guerre...
Il a dit qu'il avait sauvé des Juifs français. Pardonnez-moi de faire une nuance, même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai dit la semaine dernière que je pense que Éric Zemmour veut s'attaquer à la repentance, et il a raison, et qu'il glisse malheureusement, ou il semble glisser, de la dénonciation de la repentance à la défense du maréchal Pétain, qu'il aurait tout intérêt à arrêter. Il semble décider à le faire. Mais donc peut-être qu'il se bouche les oreilles là-dessus. Non, mais surtout, ce qui est intéressant sur les jeunes, c'est qu'on a beaucoup cru d'abord que les jeunes étaient à gauche depuis toujours. Or, les dernières enquêtes montrent qu'ils sont plutôt...
Mécaniquement, vous voulez dire ?
Mécaniquement, que structurellement, la jeunesse était plutôt à gauche. On voit que c'est plus le cas. Qu'elle est plutôt à droite, et tout simplement parce qu'elle a été frappée beaucoup plus encore que par ses aînés, par les nuisances, j'allais dire, enfin les drames liés à la mondialisation, liés à une immigration de masse qui n'a pas su s'intégrer. C'est la jeunesse qui prend le métro, c'est la jeunesse qui va à l'école, c'est la jeunesse aussi qui a été frappée le 13 novembre, en particulier sur les terrasses des cafés. Donc je crois que c'est tout ça qui explique l'engouement d'une partie de la jeunesse pour Éric Zemmour, bien plus que les histoires du maréchal Pétain.
Patrick Caram.
Moi, je pense que son discours n'est pas forcément écouté. Je n'en retiens que ceux qui veulent bien pouvoir retenir. Moi, j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, d'une espèce de grand blast médiatique. On ne pense qu'à lui, on ne voit que lui. Il est dans tous les médias, mais il n'est pas à l'abri de contradictions. Là, on a parlé de Pétain. Pétain, tout le monde se souvient du Veldiv. Tous ceux qui ont fait un peu d'histoire se souviennent du Veldiv. On ne peut pas tenir décemment son discours. Et Zemmour a d'autres contradictions. Moi, j'aimerais en pointer un. Et c'est le défenseur des chrétiens d'Orient qui vous le dit. Zemmour défend, et devinez qui, un islamiste. Alors qu'il dit que l'islam, on en a parlé la semaine dernière, l'islam, voilà l'ennemi, et il défend Tariq Ramadan. Lorsqu'on a saisi le portable de Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'on voit ? Un message de Zemmour, félicitations pour votre dernier livre, mes amitiés, je vous embrasse. De la même façon, lorsque dans son livre, j'ai lu son livre, mais vraiment avec stupéfaction, je lis, j'ai eu un choc lorsque j'ai aperçu Ramadan sur mon écran de télévision, à la sortie de prison, cheveux blanchis, mine défaite, la voix cassée d'un vieillard, il nous ferait presque pleurer. Et il continue, j'avoue avoir eu honte pour Bourdin, et avoir à cet instant pris en pitié sa victime, c'est-à-dire Tariq Ramadan, islamiste Tariq Ramadan, qui allume le feu, dont la doctrine est un poison pour l'Occident. Mais la doctrine, cette doctrine-là, on la vit en Orient. On la vit avec le massacre des chrétiens d'Orient, le massacre des minorités. Pardon de vous le dire, il y a une contradiction majeure et j'aimerais bien qu'il s'explique sur cette question qui, pour moi, n'est pas une anecdote.
En tout cas, c'est lancé. Nous accueillons Aurélien Taché. Merci beaucoup de nous rejoindre dans les débats d'Europe Soir. Nous en étions au meeting de Zemmour à Lille, avec 1500 personnes autour de lui. Et on disait effectivement des anciens déçus de Marine Le Pen, des anciens de Boula France. Comment est-ce que vous voyez cette progression à la fois sur le terrain, puisqu'il y a ce meeting, on parle d'une dédicace, mais c'est un véritable meeting politique, et la montée d'un sondage à 15%.
Il est là le vrai grand remplacement, c'est celui de la droite par Éric Zemmour. Voilà. On a effectivement Éric Zemmour qui aujourd'hui est en train de complètement... Il n'a pas tort d'ailleurs quand il dit qu'il il ressemble à certaines personnalités ou déclarations qui étaient celles du RPR des années 90. Moi, quand il dit ça, je pense immédiatement à Charles Pasqua, je pense immédiatement à un certain nombre de gens qui, effectivement, ont toujours eu sur ces questions d'immigration, d'identité. Rappelons-nous ce que Pasqua proposait dans les années 90, la suppression du droit du sol, etc. Ont toujours eu une ligne extrêmement dure qui a été finalement désavouée à l'époque par Jacques Chirac, qui lui, en 95, a préféré parler de fracture sociale, a fait son grand discours sur la rafle du Veldiv, s'est finalement inscrit dans un humanisme tout à fait respectable. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui vient de la gauche, mais je reconnais qu'à droite, il y a d'authentiques humanistes. Mais il y avait aussi des gens qui étaient sur d'autres positions. Et finalement, aujourd'hui, la base des Républicains, si Éric Zemmour se présentait demain à une primaire ou au congrès LR, il l'emporte haut la main.
Mais qu'est-ce qu'on fait après?
Pardon ?
Et qu'est-ce qu'on fait après ?
Alors après, eh bien, quand on est dans mon cas, on constate que c'est aujourd'hui lui l'adversaire politique et on le combat. Et on ne le fuit pas d'ailleurs. On va le voir, on débat avec lui. Moi, j'ai fait deux débats avec Éric Zemmour. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels, je ne dirais pas qu'il a raison, parce que je suis diamétralement opposé sur le fond, mais il a raison de parler de la France, de son histoire, de l'identité, des symboles. Beaucoup de choses que les humanistes ont oublié de faire, pensant que finalement tout se réglait, tout se résumait à la question matérielle de la répartition des richesses, etc., qui est extrêmement importante. Mais ça ne suffit pas à faire une nation, ça ne suffit pas à faire un peuple. Simplement, on n'a pas du tout les mêmes références et la même vision de ce que doit être cette nation avec Éric Zemmour. Mais il a le mérite de mettre ces sujets-là sur la table. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le camp conservateur, aujourd'hui, il fait florès. Et là, il va continuer. Son ascension ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, Éric Zemmour, ça n'est plus simplement un phénomène
médiatique.
C'est
vous qui ne vous arrêtez pas, là.
Non, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour ma part, on le combat. Mais on ne le néglige pas et on ne le prend pas à la légère parce que ce n'est pas un phénomène anecdotique.
Qui réagit à ça ?
Pardon, si je veux dire juste Patrick un mot, le grand remplacement, c'est-à-dire Éric Zemmour qui remplacerait les LR. Oui. Enfin, vous n'êtes pas très sérieux, Aurélien Taché. Or, ce qu'on voit plutôt, c'est Marine Le Pen qui est aujourd'hui en train de décrocher. Il prend quelques points,
Mais Marine Le Pen avait déjà remplacé les LR puisqu'elle était au second tour et pas les LR. C'est surtout aujourd'hui
l'extrême droite qui se cherche un leader. Et peut-être que le règne de la famille Le Pen, 50 ans de règne, va trouver sa fin avec Éric Zemmour.
Zemmour, qu'il était chez lui, ici, chez les LR.
Oui, enfin, moi, je veux vous dire, vous donnez des leçons, mais quand je regarde chez vous, quand je regarde à gauche ce qui est en train de se passer, la fracture entre ceux qui sont pro-islamistes, pro-rock, etc. Et puis ceux qui sont toujours dans les chaussures de la République, vous devriez plutôt vous interroger sur votre mouvement politique.
Vous parliez de Marine Le Pen et de la famille Le Pen. Ça tombe bien, il y en a un qui a pris la parole aujourd'hui, c'est le père, le patriarche Jean-Marie Le Pen. On l'écoute.
Si Zemmour se qualifie pour être le candidat au deuxième tour, je voterai pour Zemmour et je ferai campagne pour lui. Zemmour progresse sur certains sujets. Il le fait un peu au détriment de Marine, qui est plus passive que lui, moins présente. Vous savez, notre monde adore le changement, adore la nouveauté, et Éric Zemmour a l'avantage de la nouveauté. Il arrive, il est étonnant, il est percutant. Et bien sûr, il secoue un petit peu les édifices existants.
Vous avez remarqué le rire à la fin.
C'est sardonique.
Vous vous rendez compte?
En tout cas, c'est le coup de pied de l'âne à sa fille. J'en dirai pas plus.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Proutot? Passive, moins présente, il n'y a pas de main morte.
Oui, alors
avec
là, c'est le constat qu'il fait par rapport à la montée de Zemmour. Et il dit en gros que si Zemmour monte, c'est parce que Marine est pas, en gros, elle n'est pas à la hauteur. Oui. Cela dit, ce qu'il dit en préambule, c'est pas étonnant. Il dit, si t'es au deuxième tour, je voterai pour lui.
Je ferai campagne pour lui.
C'est pas justement, ça prouve bien que Zemmour est le leader de cette partie-là qu'il a construite pendant des années, qui est à la droite de la droite.
Vous remarquerez qu'avec 16% de Marine Le Pen, je prends toujours le sondage Ipsos de ce matin, 15% de Zemmour et 1,5% de Nicolas Dupont-Aignan, on arrive à un tiers de l'électorat pratiquement.
Bah, c'est ce qui est intéressant dans ce sondage. Le bloc national et le bloc de droite, si on élargit, est quand même extrêmement haut.
J'ai pas pris les LR,
à 45%, voire plus si on rajoute.
Non, parce que sinon, je me fais casser la gueule par Caram.
Si on rajoute du Pontellier. Non, mais c'est intéressant pacifique. Aussi. Est-ce que les LR veulent. Faire partie de. Veulent être majoritaires ou veulent rester minoritaires? C'est aussi une question que pose, ce sondage, mais ça montre un bloc national très très important, historiquement haut, une gauche historiquement basse et un président de la République structurellement minoritaire, mais qui peut gagner, mais qui sera un président faible, puisqu'il a 24% et il peut bénéficier finalement du rejet peut-être ou d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Je crois qu'il mise là-dessus, même si à mon avis, Éric Zemmour n'est pas Marine Le Pen et jouer les apprentis sorciers là-dessus, il pourrait y avoir des surprises, mais il ne mise sa réélection que sur le rejet de son potentiel adversaire. Donc ce sera, s'il est réélu, un président structurellement réellement faible, et on voit qu'il y a une crise de la démocratie qui s'annonce à l'issue de cette élection.
Une première pause dans cette émission. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, Christian Proutot, fondateur du GIGN, Patrick Caram, le vice-président libre de la région Île-de-France, et le député du Val-d'Oise Aurélien Taché sont avec nous. C'est Europe Soir, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table mon confrère du Figaro Alexandre Devecchio, le fondateur du GIGN Christian Proutot, le vice-président de la région Île-de-France Patrick Caram et le député du Val-d'Oise Aurélien Taché. On parlait de cette percée d'Éric Zemmour dans le dernier sondage Ipsos, 15%. 15%, ça veut dire qu'il est dans tous les cas de figure devant le candidat de la droite, entre guillemets, classique, puisque Xavier Bertrand est à 14, Valérie Pécresse à 12 et Michel Barnier à 11. Voilà donc les prévisions des intentions de vote au premier tour, avec effectivement donc un siphonnage, entre guillemets, des votes de la droite classique, mais aussi de l'extrême droite, et en l'occurrence de Marine Le Pen, Patrick Carrère.
Alors, c'est le phénomène qu'il faut regarder. Marine Le Pen a tiré les leçons de son échec face à Emmanuel Macron. Elle a viré, elle a nettoyé son parti politique. Elle a aussi engagé son parti dans une voie de ce qu'elle a appelé la dédiabolisation. Ça veut dire qu'elle a lissé toutes ses thématiques. Et elle a abandonné un certain nombre de thématiques qui faisaient florès à l'époque de son père.
Ça voudrait dire que... Vous aimez bien cette expression, tous, ce matin, ce soir plutôt, faire florès.
Alors, c'est la première fois que je l'entends, puisque c'est bon. Et ça voudrait dire qu'il y a une partie de l'électorat qui ne se retrouverait plus dans le Rassemblement national aujourd'hui. Oui, oui. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche d'une candidature de substitution. Et certains d'entre eux qui étaient encore au Rassemblement national l'étaient parce que, faute de mieux, ils se contentaient de grilles, faute de pain. Oui, mais ça veut dire quand même qu'il y a dans la société française...
Est-ce qu'il n'y a pas une usure de Marine Le Pen? Entendez quand même son père qui dit, voilà, Éric Zemmour, c'est l'attrait de la nouveauté. Marine Le Pen, elle est quand même 63. Campagne présidentielle.
Je crois que Marine Le Pen, il y a une partie des électeurs qui ont compris, notamment après les régionales, que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner. Oui. Il y a ça aussi, il y a le souvenir de son débat désastreux avec Emmanuel Macron, donc je ne crois pas du tout que en fait, ils veulent plus de radicalité, plus de maréchal Pétain ou je ne sais quoi, les électeurs, mais je pense qu'ils veulent quelqu'un qui potentiellement peut gagner, porte fortement un certain nombre de thèmes que Marine Le Pen ne portait plus sur la question de l'Europe, de l'immigration, de l'identité. Elle ne les portait plus, elle pensait que la marque Le Pen, en fait, d'une certaine manière, suffisait.
Vous pensez qu'on a encore besoin de maréchal Pétain?
Comment ça?
Vous avez dit ça à l'instant?
Non,
j'ai pas compris.
Je disais que...
Le contraire.
Je disais le contraire.
Ouais. Je disais le contraire.
Depuis 30 secondes, j'ai un doute sur ce que vous avez dit.
Non, je disais le contraire. Patrick Caram a l'air de dire qu'il y aurait un électorat qui serait...
Respectons les électeurs. J'ai absolument jamais employé ce terme. Mais vous pouvez avoir des gens qui sont à la recherche, pardon, de sécurité, qui sont absolument violemment contre l'immigration. Contre l'immigration de manière, j'allais dire, quasiment systémique, et qui sont contre l'islam. Et qu'est-ce qu'ils disent, les mots? Ils disent contre l'islam. c'est une faute qu'il fait. Oui, mais oui. Pour certains électeurs, ça peut parler.
Ah, absolument.
Christian Proutot.
Non, mais moi, je crois qu'effectivement, même si tout à l'heure, il peut y avoir confusion avec Pétain, non Pétain, ou est-ce qu'il faut une droite pétainiste ou pas.
Bon, je crois que tout le monde s'en fout de la droite pétainiste.
Non, pas du tout.
Il y a ceux qui peuvent être heurtés par des propos. Dont on pense, moi je pense qu'il a tort d'aller sur ce terrain-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la droite qui se revendique du maréchal Pétain, c'est 0,001% de la population. Il faut arrêter, c'est pas le débat aujourd'hui.
Prétexte de dire on ne peut plus, il faut arrêter de regarder derrière et de se flageller, de s'auto-flageller. La preuve, c'est qu'on a dit telle chose sur le pétainisme, mais quand on réfléchit bien, dans le fond, c'était que les Juifs qui n'étaient pas des Juifs français. Mais c'est hallucinant. Et qu'on puisse écouter un discours comme celui-là sans se dire que le personnage qui prononce ces mots le y croit vraiment, et que derrière, tout d'un coup, des gens trouvent ça intéressant, en particulier, et je reviens là-dessus, sur le fait que islam, pour lui, et islamisme, c'est la même chose. On catégorise, on signale qui est l'ennemi, et on dit, attention, si vous voulez garder vos valeurs, il ne faut pas oublier que la France, ce n'est pas ce qu'on vous a raconté. Moi, je dis que... Alors, on peut rentrer dans les détails, comme rajoutant Tariq Ramadan, je vous suis tout à fait. Quand on lit ce qu'il dit sur Tariq Ramadan, ça laisse perplexe, pour ne pas dire autre chose. Quand il dit ce qu'il dit sur Strauss-Kahn et son rapport aux femmes, et que dans le fond, on a été un peu dur et que c'était un piège.
Et l'affaire du Sofitel.
Voilà. Et l'affaire du Sofitel, ça laisse perplexe également. Donc, le discours, c'est une chose, mais en plus, il l'écrit. Bon, je suis désolé, il y a des gens qui, peut-être, ont envie d'écouter cela parce qu'il est dit certaines choses.
Monsieur le député Aurélien Taché.
Alors, effectivement, il y a chez Éric Zemmour quelque chose de néo-pétainiste dans le sens où il, pas tellement pour le discours sur l'antisémitisme ou quoi, c'est pas là-dedans que je veux entrer, même si les propos qu'il a dit sont absolument indignes, parce qu'on sait que, d'ailleurs Éric Zemmour le fait régulièrement, il ne s'appuie pas tellement sur une lecture très précise de l'histoire, mais plutôt sur la volonté de reconstruire un récit national qui lui permette de dérouler une pensée politique. Donc ces figures et ces héros sont toujours ceux qui ont été les plus conservateurs, les plus violents. C'est comme ça qu'Éric Zemmour fonctionne. Mais sur le fond, il valorise effectivement une espèce de travail famille-patrie d'un nouveau genre, on va dire. Son ennemi de l'intérieur à lui n'est pas tellement les juifs, les francs-maçons ou que sais-je, c'est clairement les musulmans. Voilà, il alimente une haine anti-musulman extrêmement forte. Et en ça, il y a des ressorts qui sont finalement ceux du néo-pétainisme. Et son discours sur la question des femmes est extrêmement violent et préoccupant aussi. On vient de citer un certain nombre d'exemples. Moi, j'ai souvenir d'entendre Éric Zemmour, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est passionné par le droit civil et le droit de la famille. Éric Zemmour, il vous parle tout le temps de prénoms, il vous parle tout le temps de composition familiale. C'est peut-être d'ailleurs le seul qui en parle autant. Et j'ai souvenir qu'il disait que le divorce, c'était quelque chose, par exemple, qui n'était pas une bonne chose. Qu'il valait mieux garder un couple avec l'adultère, qu'il valait mieux que la femme souffre, qu'il valait mieux finalement cela que divorcer, parce que pour les enfants et pour la famille, c'était déstabilisant. Alors là, si on n'a pas une vision ultra-conservatrice de la famille, et c'est pour ça qu'il soutient des Tariq Ramadan ou qu'il soutient des gens qui sont vus comme ayant une vision extrêmement patriarcale. Et donc, on a là un débat politique qui se pose de manière très très forte entre, en effet, une vision progressiste du monde avec des gens aujourd'hui qui portent des combats féministes, antiracistes, pour l'écologie, et des gens ultra-conservateurs, dont Éric Zemmour est le héros, qui vont effectivement décliner une pensée exactement inverse. Et c'est ça qui fait son succès, parce que c'est ça aujourd'hui les débats politiques du temps.
D'ailleurs, Éric Zemmour est entouré d'une équipe, on peut dire, de campagne, dont une femme, Sarah Knafo. On n'a pas l'impression qu'elle soit très patriarcale, cette Sarah Knafo, vous qui la connaissez un peu.
Écoutez, moi, les fois où j'ai pu la rencontrer, je ne l'ai pas trouvé particulièrement... soumise au patriarcat, c'est sûr, mais je ne savais pas non plus qu'elle travaillait avec Éric Zemmour, donc voilà.
Ça veut dire que vous auriez accepté, vous n'auriez pas vu si vous le saviez ?
Écoutez, j'ai été débattre deux fois avec Éric Zemmour. Moi, on peut me faire beaucoup de reproches, mais pas celui d'être sectaire.
D'accord.
Je pense que le combat des idées doit être mené et qu'il ne doit jamais être fui. Mais effectivement, j'ai pas plus... Je ne connais pas Sarah Knafo mieux que ça.
Je ne vais pas vous cuisiner.
Elle m'avait l'air très libre, en tout cas.
C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça ça vous étonne encore aujourd'hui que cette personne avec laquelle vous avez eu l'occasion de discuter travaille avec Éric Zemmour?
Bah, en tout cas, à l'époque où je l'ai rencontré, rien ne pouvait le laisser supposer. Donc après, sur les opinions et le débat qu'on avait, elle ne développait pas des thèses que je qualifierais de zemmouriennes. Mmh. Bon, maintenant, j'ai bien vu qu'elle d'approche. Était au service de sa candidature et de sa campagne. Donc voilà, je le constate comme tout le monde.
C'est une tactique du renseignement, ça, Christian Proto, non?
Ah oui.
Une technique de d'espion.
Non, mais je pense qu'il faut effectivement, il faut avoir un débat d'idées à la loyale, mais il faut pas caricaturer non plus l'adversaire. Que Éric Zemmour soit un conservateur dans le sens où il s'oppose à une vision ultra individualiste, une vision qui a tendance à en plus enfermer certains individus dans une identité prédéfinie. Ça, c'est une certitude, qu'il soit pour le travail, famille, patrie. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. Qu'il soit face à la mondialisation libérale pour une certaine forme de protectionnisme, pour l'arrêt des flux migratoires, pour plus de sécurité. Tout ça, moi, je l'entends. Le reste, je pense qu'on extrait des propos qui sont en plus des propos de débat historique, idéologique, pour le diaboliser. Je pense que c'est si la campagne se fait sur ce ton-là, ça ne peut que servir sa dynamique, parce que Donald Trump, qui était beaucoup plus outrancier que Éric Zemmour, finalement, les gens ne s'arrêtaient pas à ses outrances, et plus on essayait de le diaboliser, justement, plus il montait. Donc je pense qu'il faut effectivement parler du fond. Il y a deux visions qui s'opposent. Vous avez une vision plutôt multiculturaliste, Aurélien Taché, plutôt pour l'individu que pour la collectivité.
Il y a eu un frémissement dans le studio quand vous avez parlé de Donald Trump.
J'assume tout, mais simplement je pense qu'on peut fonder le collectif sur autre chose que on peut fonder le collectif sur autre chose qu'une culture, une couleur de peau, une religion unique. Bien sûr qu'on peut en débattre, mais excusez-moi.
Là encore, il n'est pas ethniciste, excusez-moi. Son propre parcours le prouve. Mais
Alexandre Devecchio, c'est pas moi
qui dis. Il ne parle jamais de la France blanche. C'est vous qui parlez de la France blanche.
C'est pas moi qui dis que l'islam n'est pas.
Ou alors il laisse parler les autres de la France blanche sans le nier.
C'est pas moi qui dis que l'islam n'est pas soluble dans la France. C'est pas moi qui parle de grand remplacement. Et vous parlez de la forme. Très bien, moi je vous dis, je suis là pour débattre du fond, je le fais avec vous, je le fais avec Éric Zemmour, je le fais avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Simplement, quand il dit de Routel Krief que c'est une pauvre folle, ou quand il parle de certaines journalistes, on n'est pas loin de Donald Trump quand même. C'est un peu d'ailleurs, ça me déçoit, honnêtement, pour quelqu'un d'aussi érudit, pour quelqu'un d'aussi. Autant il peut avoir des thèses radicales sur le fond, combattons-les, autant tomber dans l'invective, dans l'insulte ou dans le mépris, c'est décevant.
Alors, puisqu'il vient de te dire un meeting, puisqu'on peut appeler ça un meeting, voilà ce qu'il dit également sur le sujet de l'immigration.
Les plus anciens d'entre vous se souviennent sans doute du fameux discours de Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste en 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans, dans lequel il disait « il faut arrêter l'immigration illégale et légale ». L'immigration illégale et légale, c'est exactement ce que je dis aujourd'hui.
Voilà, c'est pas moi qui dis, c'est l'autre.
Non, mais encore une fois, sur des thématiques... à mon avis, qui interpelle les Français.
Oui, mais pourquoi ce retour en arrière dans l'histoire et raccrocher ça à Georges Marchais? Est-ce que c'est une bonne raison?
Oui, il le fait parce qu'il est sur des terres du Nord, parce qu'il a un peu de culture politique, et des terres industrielles communistes qui sont aujourd'hui où le Parti Socialiste a disparu. Il faut peut-être s'interroger pourquoi ce Parti Socialiste a disparu de ces terres-là. Donc, ce n'est pas du tout un hasard s'il parle de Georges Marchais. C'est parce qu'effectivement, sur ces terres-là, il y a une... Oui, mais sur le Éric Zemmour, et ça va peut-être heurter d'ailleurs, c'est là où il va y avoir une difficulté avec une partie de la droite sur l'industrie, etc. Il avait voté François Mitterrand, d'ailleurs, elle était assez première gauche. Donc, face à un public qui est assez première gauche, qui est pour le travail, etc., pour un certain nombre de protections pour l'industrie, mais qui a aussi souffert d'une forme de dépossession culturelle, qui est aussi hostile à l'immigration et qui a d'ailleurs quitté sans doute la gauche en partie pour ça, et aussi parce que la gauche a oublié ce qu'était le travail, etc., et préfère aller sur des thématiques sociétales. Voilà pourquoi il fait ça. Donc c'est une stratégie, et il va trianguler, et il récupère un électorat populaire qui a déjà quitté la gauche,
mais qui n'est pas encore vérifié
pour aller chez Marine Le Pen.
Christian.
Non, mais moi ce que je trouve pas bien, c'est quand même de vouloir cacher simplement en disant oui, d'accord, il dit ça, mais il le dit pas parce que il le pense vraiment, mais parce qu'au moment où il est obligé de le dire, non, parce que ça fait partir du discours électoral.
Il le pense vraiment sur l'immigration.
Non, mais j'en reviens.
Juste, il se réfère à Marchais parce qu'il est sur une terre
non,
de
mais il l'a dit.
Tout à l'heure, Alexandre, vous avez dit il y a des choses, il les a dites, mais on va pas faire limiter le discours à ça, sauf qu'il les a écrites. Ça va beaucoup plus loin, ça veut dire qu'il les pense vraiment.
Vous avez cité trois phrases dans un livre, moi je crois pas à ça. J'ai pas lu le dernier en l'occurrence, mais j'ai lu d'autres livres, y compris les chapitres sur le maréchal Pétain. Ça n'a jamais été vive le maréchal Pétain, mais on peut...
Oui, mais on peut... Oui, mais il va chez Orban depuis un moment.
Victor Orban, le président hongrois.
Mais Victor Orban a été élu 4 fois, il est dans l'Union Européenne, c'est pas un dictateur. Là encore, j'ai l'impression d'être le défenseur de Zemmour, mais faut s'accorder sur ce qu'est la réalité à un moment donné. Et aujourd'hui, le nazisme, le fascisme a été vaincu depuis 1945. Alors il y a de nouvelles formes de fascisme que certains ne veulent pas voir. D'ailleurs, par exemple, l'islamisme, peut-être qu'il faut combattre celui-là qui tue aujourd'hui plutôt que des fantômes du passé.
Non, je pense que ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas mélanger les deux.
Et dans l'islamisme n'est pas le fascisme, ce que vous dites, Christian Proto.
L'islamisme,
oui, ce que j'ai dit.
Sauf que lui, il a dit l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Et c'est ça, c'est là où c'est dangereux. C'est que tout d'un coup, on dit le problème, c'est l'autre. Il n'y a pas de proposition, là, pour le moment. On va virer tous ceux qui nous gênent, et demain, tout ira bien.
Alors, sur l'affaire de Georges Marchais, moi, en arrivant en 81 à Paris, je venais de ma Guadeloupe natale, j'ai vu le Parti communiste, un maire communiste, aller au bulldozer détruire un campement d'immigrés illégaux. Voilà, au bulldozer.
Où ça ?
Et c'est vrai que, en région parisienne,
ça doit être
Champigny peut-être. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait un peu interpellé, communiste, etc. Alors, il le faisait parce que ça mangeait le pain des Français. C'est ce qui était dit à l'époque par le Parti communiste. Il faut l'avoir en tête. Ça mangeait le pain des Français, et que ceci et que cela. Non, là-dessus, il a une stratégie. Sa stratégie est simple. C'est qu'aujourd'hui, Zemmour s'adresse au CSP+. Ils sont avec lui. C'est très clair aujourd'hui dans les sondages. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'aura pas trop de problèmes pour récolter de l'argent, sauf s'il arrive entre-temps à mettre la main sur le parti de Marine Le Pen. Il a besoin de s'adresser aux CSP-. Les CSP- aujourd'hui, c'est encore Marine Le Pen. Et son problème, c'est se chasser sur ses terres. Je voudrais simplement lui lancer un défi. Valérie Pécresse est allée le week-end dernier à Pantin.
Il fallait que ça arrive.
Oui. Pantin, vous voyez, mais au cœur du chaudron, là où tout dérape. Moi, je mets Zemmour au défi de sortir de ses meetings et d'aller dans les quartiers populaires, parler aux gens.
C'est intéressant parce que la dernière fois qu'il est sorti dans un quartier populaire, il s'est fait agresser, il a été obligé.
Non, mais alors,
la faute à qui ?
Vous imaginez un président de la République incapable d'aller parler à tout le peuple français. Je le dis de manière très claire.
Les gens qui l'agressent dans la rue, c'est inacceptable.
Attendez, je ne voudrais pas qu'on me le fasse dire ce que je n'ai pas dit par défaut. Absolument inacceptable, cette agression contre Zemmour. Je ne l'apprécie pas, je ne l'accepte pas. Et si j'étais là, comme je suis un peu costaud, je serais allé le défendre. D'autres auraient peut-être couru devant l'agresseur. Ouais. Ce que je veux dire aujourd'hui simplement, c'est qu'il est incapable de se déplacer, comme l'a fait par exemple une femme, Valérie Pécresse, seule, sans policiers pour le protéger, partout dans toute la France et dans tous les recoins français.
Mais bien sûr, puisque... rien ne justifie jamais la violence et je suis d'accord avec vous Patrick Karam, si je tombais à un moment dans la rue et que je voyais Éric Zemmour se faire agresser, j'irais essayer de l'aider aussi, je ferais ce que je pourrais, je suis moins costaud que vous, alors je ferais ce que je pourrais, mais en tout cas rien ne justifie la violence. Après, Éric Zemmour, il est dans une forme de radicalité extrêmement forte et dans des propos qui sont eux-mêmes extrêmement violents et donc qui ne cherchent pas forcément non plus une forme d'apaisement. Sur Marchais, vous nous dites Marchais finalement... il va faire ça parce qu'il est dans les terres du Nord et je ne sais quelle référence. Pas du tout. Effectivement, ce qui lui manque à Éric Zemmour, c'est un discours sur le social. Et comme il a une obsession qui est l'immigration, il se dit, tiens, je vais essayer d'être un peu tactique. C'est un peu comme Sarkozy faisait avec Jaurès. On va essayer de citer des références qui peuvent plaire à la gauche ou aux catégories populaires. Sauf que ce n'est pas du tout le même but. Marchais, quand il dit il faut arrêter l'immigration, c'est pour que les salaires des ouvriers augmentent. Je n'ai pas entendu dans la suite du propos d'Éric Zemmour dire qu'il fallait augmenter les salaires, demander quoi que ce soit au patronat. Aucun espèce de discours de gauche ou de...
Le problème, c'est que vous avez pris un extrait.
Je l'ai écouté en entier.
Tout un long discours, et ça, c'était intéressant, moi, je trouve. Et encore une fois, je renvoie la balle Duval à la gauche, il a fait tout un discours sur les terres du Nord qui ont été désindustrialisées et qu'on a laissé se
désindustrialiser.
Encore une fois, Éric Zemmour est un symptôme. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il faut se demander pourquoi il monte. Et pourquoi il monte,
oui,
c'est qu'il aborde un certain nombre de sujets, il s'adresse à un certain nombre de gens qui ont été méprisés, délaissés pendant très, très longtemps. Donc vous pouvez dire que les ouvriers, etc., il n'est pas préoccupé par leur... Il a parlé que de ça pendant...
J'ai écouté l'entièreté du discours. Effectivement, c'est une référence qui est vraiment uniquement tactique, parce que derrière, il ne propose rien de concret à part dire qu'il faut différencier entre les travailleurs et les assistés. Et deuxième chose, pourquoi Éric Zemmour y monte ? Effectivement, parce qu'il parle à certaines catégories populaires. Vous disiez tout à l'heure, il faut que la gauche se demande pourquoi elle a été abandonnée par les catégories populaires. Mais précisément, moi, je suis d'accord que sur le fait qu'il y a un certain nombre d'élus communistes ou autres qui ont maltraité une partie des catégories populaires françaises, et notamment celles issues de l'immigration. Zemmour essaye de s'adresser aux catégories populaires blanches. Il essaie de faire du Trump. Et donc, il est évidemment sur ce ressort-là. La gauche, si elle avait su parler à toutes les catégories populaires, comprendre qu'elles ont changé et qu'une partie d'entre elles aujourd'hui est issue de l'immigration, qu'elle avait continué à mener le combat sur l'éducation nationale pour que les parents aient finalement une certitude que leurs enfants aient un avenir meilleur qu'eux, personne ne les aurait abandonnés. La grande différence entre la droite et la gauche, monsieur, c'est ça, je suis désolé. La gauche, elle veut se battre pour toutes les catégories populaires, quelle que soit leur origine. Elle veut se battre pour leur donner un avenir. Zemmour s'adresse à une partie des catégories populaires, celles qui sont blanches, et c'est comme ça qu'il joue la division des Français.
Encore une fois, vous parlez des blancs, mais les seuls qui ont fait une note, c'est le Parti Socialiste, la note de Terra Nova, juste avant l'élection de François Hollande, qui expliquait les catégories populaires, finalement, sont des racistes et des beaufs. Elle ne le disait pas comme ça. Mais on n'a plus besoin d'eux. On va s'adresser aux jeunes, aux femmes et aux minorités. Donc, ceux qui ont ethnicisé les choses, ce n'est pas Éric Zemmour, c'est vous.
Il disait qu'il fallait défendre les minorités aussi.
Et maintenant, vous avez la créature que vous avez créée.
Alexandre Devecchio, Christian Proutot, Aurélien Taché et Patrick Caram. Ça, c'est une spéciale dédicace pour vous parce que ça se fight pas mal dans le studio. A tout de suite pour la suite des débats d'Europe Soir.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Ambiance dans le studio d'Europe Soir avec Alexandre Devecchio, Christian Proutot, Patrick Caram et Aurélien Taché. On parle d'Éric Zemmour, de son meeting, de sa percée dans les sondages qui anéantit, non, pas encore, mais en tout cas qui siphonne les voix à droite. Pendant ce temps, il y a toujours un congrès de La République En Marche à Avignon. Bruno Le Maire a bien sûr eu vent de ce sondage qui met Éric Zemmour à 15%. Le ministre de l'économie réagit à cela.
Je pense que se livrer à un concours de punching ball ne sert absolument à rien. C'est lui qui monte aujourd'hui, il y en a d'autres qui monteront, ça fait partie des montagnes russes des élections présidentielles. À un moment donné, un candidat monte, un autre chute, ça occupe un temps les médias, les observateurs. Moi, je ne suis pas observateur. Je suis acteur politique. Il faut, vous savez, une certaine constance intérieure quand on fait de la politique. C'est-à-dire ne pas se laisser disperser par un sondage, par la montée d'un candidat, par l'ébullition médiatique du jour qui va céder la place à une autre ébullition médiatique, puis une autre ébullition médiatique. Ça me fait penser un peu à ces cloques que l'on voit autour des lacs volcaniques. Il y en a une qui éclate, puis une autre, puis à nouveau une autre. Et si vous passez votre temps à observer le phénomène, vous perdez le sens de votre chemin et vous perdez votre route.
Ouais, spécialiste en volcan, Bruno Le Maire, sur les cloques volcaniques. Comment est-ce que Christian Proutot.
Oui, mais non, sur le fond, ils sont aux manettes, donc ils sont obligés de dire, de tenir
ce
discours.
C'est un événement, quoi. Un événement, il y a un sondage.
Il ne peut pas faire autre chose que de minimiser l'événement. Là où je suis.
Oui, parce qu'il y a Macron quand même tout devant à 25-26% dans n'importe quel cas de figure.
Voilà, tout
pour
à fait. Donc
l'instant.
Ça peut être également rassurant. Alors en disant, nous, pendant que vous commentez l'arrière, nous, on avance et on continue à diriger la France. Mais bon, je pense que il a raison, tout en ayant tort, malgré tout, de ne pas regarder qu'il se passe quand même quelque chose et de savoir l'incidence que pourra avoir ce quelque chose sur la suite, s'il y a une suite. Mais moi, je dis que tant qu'il ne se déclare pas, tous les scénarios sont possibles. Je pense que quand il va s'être déclaré, et là, il peut marcher sur l'eau. Quand il va se déclarer, ça ne va plus être pareil. Ça, il me semble que, y compris pour les médias, parce qu'à ce moment-là, il sera à la même hauteur que les autres, et le taux d'écoute ou la répartition de l'écoute ne pourra plus être la même.
Moi, je crois que le pouvoir est en train de le désigner comme l'adversaire. On a vu Emmanuel Macron qui lui a répondu sur les prénoms, il l'a mis à son niveau. Là, ce que je fais, Bruno Le Maire, c'est de dire, il y a d'un côté le parti des raisonnables, nous, et de l'autre, la folie, la radicalité d'Éric Zemmour. Donc je pense que le En Marche et Emmanuel Macron, après avoir affronté Marine Le Pen, rêvent d'affronter Éric Zemmour. Il y a des sondages du second tour qui disent que finalement Éric Zemmour, c'est celui qui ferait le moins face à Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il faut se méfier de ces sondages-là, parce que c'est un peu comme Trump, là, pour le coup. Oui. On avait dit qu'il ne peut pas gagner, etc. Oui. Je pense que s'il arrivait
moment,
au second tour, ce serait un big bang tel qu'on pourrait avoir des surprises, notamment la participation des abstentionnistes. Mais moi, oui, je pense que là, le gouvernement cherche ce clivage-là, parce que c'est un... C'est plus avantageux pour eux que d'affronter un candidat de la droite traditionnelle au second tour. Et puis maintenant, il faut se calmer quand même, parce que je pense qu'il y a une réelle dynamique Zemmour. Ça montre qu'il n'y a pas d'envie pour Marine Le Pen, qu'il n'y a pas d'envie pour la droite. Mais c'est vrai que c'est des sondages qui sont faits sur des gens qui sont sûrs d'aller voter. Et c'est le même effet qu'avec Jean-Pierre Chevènement. Et donc
En
2002. Mm. Et donc, le corps électoral, finalement, c'est les gens les plus motivés là, qui répondent. Et il y a plus de 50% qui ne sont pas classés dans ces sondages-là. On peut imaginer, quand ils vont arriver et s'intéresser à la campagne, leur choix ne se portera pas forcément, peut-être, mais pas forcément sur Éric Zemmour.
Non, mais là, je vous rejoins en partie. D'abord, je pense que Bruno Le Maire n'est pas à l'aise. Alors, il essaye de balayer d'un revers de la main quelque chose qui n'est pas un épiphénomène médiatique, qui correspond à quelque chose qui est en germe depuis longtemps.
Je peux vous dire qu'à l'image, il avait l'air totalement zen, hein, totalement à l'aise quand il fait cette déclaration qu'on vient d'entendre.
Bruno Le Maire. Même quand il annonce que la France est en faillite, il est zen.
Moi, je pense vraiment qu'au contraire,
c'est plutôt
il y a quelque
son
chose
flegmatique
de plus profond habituel, qui se joue depuis flegme. Longtemps au sein de la droite, chez cet électorat-là, et que Éric Zemmour est aujourd'hui celui qui arrive à réaliser le fantasme, le rêve de beaucoup à droite, à savoir cette union des droites. Moi, je pense deux choses. Je pense qu'effectivement, si Éric Zemmour est au deuxième tour, il peut être plus dangereux que Marine Le Pen, parce qu'il a pour lui ce crédit qui lui est fait de la compétence, de la connaissance, et qui serait en capacité de convaincre une partie de LR. Vous savez, quand Trump s'impose aux États-Unis, il s'impose en prenant le pouvoir aux républicains. Ils ne veulent pas de lui. L'establishment républicain ne veut pas de lui. La force va à la force. Une fois qu'il est en place, les mecs s'alignent, c'est tout. Donc c'est ce qui se passe. Donc ça d'abord, il ne faut pas négliger le fait qu'il puisse réellement gagner s'il est au deuxième tour. Et après, moi, je dirais autre chose. Je pense que le phénomène Zemmour, qui pourrait aspirer un peu LR, le RN, etc., va obliger Macron à leur courir après et va ouvrir un espace sur le centre et la gauche qui peut aujourd'hui être occupé. Écoutez, moi je soutiens Yannick Jadot qui vient d'être désigné aux primaires. Regardez le sondage dès le lendemain de sa désignation. Mmh. On a un Zemmour qui a 15, on a un Jadot qui arrive à 9. 10. Vous savez, le toboggan, 9. Ça peut vite arriver. Hein. Mmh. Le toboggan, ça peut vite arriver. Encore une fois, à force d'avoir voulu jouer avec le feu, Macron va se retrouver pris à son propre piège parce que sur ce terrain de la droite conservatrice, il ne sera pas le meilleur. Et par contre, sur d'autres sujets, le progressisme, la jeunesse, l'écologie, tout ce qu'il incarnait en 2017, il va se faire dépasser par Jadot.
Christian.
Non, mais on peut pas en permanence faire le parallèle avec Trump, c'est pas possible. Il y a eu, aux États-Unis, c'est parfaitement binaire. Il y a les démocrates.
La comparaison, c'était uniquement sur le côté establishment, qui, à mon avis, est assez juste, mais vous êtes plusieurs à le.
Oui, mais après. À le
mettre sur le tapis.
Après, c'est plus facile d'avoir ce genre de personnage
aux États-Unis.
À partir du moment où il est celui qui représente un parti, que là, où quand on fait le bilan, et c'est peut-être le drame de la gauche, entre guillemets, et de la droite, entre guillemets, en dehors des deux extrêmes, c'est qu'il y a. Moi, je n'arrive même plus à faire le compte de tous les partis qu'il y a actuellement.
Prenez le sondage, là, vous allez voir.
Vous avez raison. Éric Zemmour a des points.
La liste est longue. Il y a Patrick Carin qui voulait remplacer.
C'est ce que je voulais dire, la liste est longue. Hein.
Je pense qu'il y a plusieurs temps à l'Élysée. D'abord, le président de la République a dû se frotter les mains. Il s'est dit, tiens, Zemmour va être là, il va à la fois grignoter les marges de la droite et du Rassemblement National. C'est bon pour moi, je me frotte les mains parce qu'ils vont se neutraliser les uns les autres. Et puis, il voit effectivement que Marine Le Pen descend et qu'il peut y avoir un croisement de courbes. Et il peut se retrouver face uniquement à Éric Zemmour dans cette élection-là.
Et
ça, pour lui, c'est un sujet. C'est un sujet, pourquoi ? Parce qu'il peut se dire... c'est pas sûr que je gagne face à Zemmour.
Pourquoi ?
Marine Le Pen,
pourquoi ?
Parce que Zemmour va rassembler plus large que Marine Le Pen. Mmh. On va arrêter de se dire des bêtises. Zemmour va chercher dans l'électorat de gauche un certain nombre de publics. Dans l'électorat de droite, d'autres publics. Il est capable à condition de se surpasser, d'aller chercher loin. Je veux simplement dire
Zemmour,
une chose.
Et Zemmour n'a pas de bilan, puisque Macron a le bilan d'un quinquennat.
Et Zemmour n'a pas de bilan. Mais par contre, je voulais juste... je vais dire ça et je vais dire le contraire. Voilà, parce qu'il faut toujours faire de thèse et antithèse.
En même temps.
On apprend ça quand on fait un peu de droit. Le sujet, c'est qu'on n'est pas vraiment rentré en campagne aujourd'hui. Ouais. On n'est pas rentré en campagne. Et puis, la droite républicaine, cette droite-là, pour l'instant, n'a pas un candidat visible qui s'exprime et qui parle à tous. Donc ça, pour l'instant, la donne n'est pas figée. Troisièmement, comme on n'est pas dans la campagne et qu'on voit que ce qui préoccupe les Français, c'est d'abord le pouvoir d'achat. Ça, c'est une faiblesse totale
de Zemmour.
Pour l'instant, on l'a pas entendu, Zemmour, sécurité en deuxième temps, ok, sécurité. Mais le troisième temps, c'est la protection sociale. Mmh. Il est inexistant et il n'a pas de vrai projet et il n'est pas non plus connu pour avoir des projets dessus. Je veux dire qu'à un moment donné, les faiblesses d'Éric Zemmour et plutôt ce qui fait aujourd'hui sa force, c'est de parler des sujets qu'il connaît bien. Cette force-là va devenir une faiblesse pour lui.
Est-ce qu'il peut ne pas parler de ces sujets ?
Il est obligé d'en parler.
Ou est-ce qu'à un moment donné, il est obligé
d'en parler parce que, regardez la dernière séquence de la semaine, cette semaine. On a beaucoup parlé du prix de l'essence. Oui. On a beaucoup parlé du prix du chauffage, du gaz, etc. Il y a des sujets majeurs sur le pouvoir d'achat. Et ce n'est pas un hasard si un certain nombre de candidats ont travaillé sur cette question et sortent des propositions. Le problème de Zemmour, c'est qu'il est limité dans un corner et je ne sais pas réellement s'il est capable d'être audible sur d'autres questions. Il est audible sur ce sujet.
Même s'il est conseiller. Sur l'immigration. Même s'il est conseiller, il a une équipe de campagne.
Il est audible sur l'immigration et il est audible sur la sécurité. Il est audible sur la sécurité et l'immigration.
Je pense pas.
Mais est-ce qu'il sera audible sur les autres? Ça, je ne crois pas du tout.
Je ne crois pas. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que j'ai pas mal lu Éric Zemmour et je pense qu'on est dans un phénomène occidental qui dépasse la France de révolte des classes moyennes et populaires qui se sont paupérisées, qui se sentent dépossédées culturellement et démocratiquement. Donc que la mondialisation est un phénomène total et qu'Éric Zemmour, justement, en tant qu'idéologue, a traité ce sujet sous toutes ses formes, contrairement à ce qu'on dit. Je parlais tout à l'heure de la désindustrialisation, de l'Europe, des frontières, de la prédominance du marché. Contrairement à ce qu'on dit, c'est des choses qu'il a traitées dans ses livres. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le déploie pas durant la campagne. C'est ce qu'il essaie de faire dans le Nord et c'est ce qu'il a essayé de faire en allant voir des entrepreneurs dans le Nord. Donc on peut avoir des surprises là-dessus. Après, la difficulté, ça va être de parler à deux électorats en même temps. Ça a été la difficulté de Marine Le Pen, qui a été très bonne sur le bloc populaire et qui a un peu effrayé les classes moyennes ou supérieures avec un programme trop étatiste. Donc la difficulté, à mon avis, d'Éric Zemmour, ça va être de trouver le bon curseur. Et puis après, il faudra voir si l'enjeu identitaire, puisque c'est vrai que c'est là où il est le plus attendu, dépassera ou pas dans cette élection, tous les autres enjeux, c'est parce que sans montrer les sondages, puisque selon les sondages, la préoccupation principale est le pouvoir d'achat.
Moi, je crois qu'il y a deux choses. Sur le fond, effectivement, aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, ce qu'attendent les électeurs, c'est de nouveaux grands récits. On parle souvent de la chute des grandes idéologies, le gaullisme, le socialisme, tout ce qui a pu, à un moment, structurer le débat politique en France. Aujourd'hui, moi, quand j'entendais Macron dire qu'il fallait dépasser les clivages, j'entendais, ces familles politiques-là qui ont apporté énormément, aujourd'hui, elles ne peuvent pas recouper l'ensemble des problématiques ou proposer une grille de lecture qui correspond à ce qu'attendent les gens. Donc, on va essayer autre chose. Il s'est avéré que cette autre chose a été une espèce de dépolitisation complète qui ne m'a pas du tout convenu. Mais là-dessus, il avait raison. Aujourd'hui, les grands récits politiques, ils se structurent autour de quoi ? Ils se structurent autour d'effectivement un récit nationaliste, conservateur, appelons-le comme on veut, qu'incarne Éric Zemmour, et un grand récit autour de l'écologie politique. C'est ça qui se passe sur le fond. Donc le débat, il va se situer, à mon avis, à ce niveau-là. Deuxième chose sur le candidat Éric Zemmour au-delà du fond. Il renoue Éric Zemmour avec une tradition française qui est la tradition de candidats littéraires, de gens qui vont finalement, avec l'idéologie, vous avez raison, qui vont parler d'un projet de société. Patrick Caram, vous avez raison sur le fait qu'il y a des problèmes très concrets pour les Français, mais les Français n'attendent pas du président de la République que ce soit un énième technocrate qui vienne nous donner le prix de l'essence, le prix de la taxe, quoi que ce soit. On en a marre de ça. Les gens veulent se projeter dans un imaginaire.
Ils veulent plus d'un catalogue, c'est ça ?
Mais oui, c'est ça. C'est le problème de nous tous. Hein. Je me mets dedans. Moi, c'est mon premier mandat. Je suis un élu, mais les gens qui sont en politique ou dans les cabinets ou élus,
depuis trop longtemps, on perd souvent la mesure de ça. En réalité, tous ces débats picrocolins sur les mesures, les gens ne les comprennent pas, ne les écoutent pas. Rosan Vallon aussi, dans son bouquin, le dit très bien. Les gens aujourd'hui, ils votent avec leurs tripes, ils votent avec le sentiment d'avoir été humiliés ou pas, ils votent avec leurs émotions. Ceux qui leur projettent un imaginaire,
ils votent pas
un
avec
avenir,
des œillères non
et
plus.
Qui leur parlent, il faut quand même savoir aux tripes, vont réussir à marquer des points, quand bien même sur le fond, ce qu'ils diront n'est pas forcément sérieux ou précis, je le crois.
Patrick Karam, ouais. Tu n'es pas d'accord?
Non, pas tout à fait, parce que là, vous ne pouvez pas dire dans le même temps, c'est la fin des grands récits à droite ou à gauche, parce que chaque parti avait structuré son existence autour d'un récit, autour de son propre imaginaire, de thématiques spécifiques. Vous ne pouvez pas dire que ça a disparu et en même temps dire que les gens veulent ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une société Kleenex où tout va très vite, c'est-à-dire qu'on consomme. Et on oublie. On consomme et on oublie. Et on le voit. Toutes les strates de la société aujourd'hui sont marquées. Mais je pense qu'on n'est pas, on n'attend pas justement ces grands récits. Zemmour, je pense que c'est plus, pardon de le dire, hein, plus un phénomène de cirque aujourd'hui. Mais c'est intéressant de l'écouter parce que c'est amusant. C'est un phénomène de mode. Et puis on va s'en laisser.
Je vais être d'accord avec Aurélien Taché.
Ah, bah, c'est un peu le
J'en suis le médecin.
Exactement. Non, mais 100% d'accord avec ce qui a été dit. Et un peu atterré, pardon, Patrick, que la droite ne voit pas.
C'est pas la droite, c'est Patrick Karam.
Oui, mais c'est symptomatique de la droite. Je ne sais plus à qui s'adresse la droite. C'est-à-dire qu'à un moment, on défend effectivement un projet de société. Et je pense que la grande faiblesse et de la droite et du Parti Socialiste, c'est de ne pas défendre
pas
de projet de société.
Non, on parle de la même chose.
Un catalogue de mesures.
Le mieux élevé de vous quatre, c'est Christian, parce qu'il attend qu'on lui donne la parole. Christian Proto.
J'attends parce que j'observe qu'on revient à un débat qui, de toute façon, devient clivant et répond plus au problème. Le problème, c'est que Zemmour est arrivé parce que c'était le vide sidéral derrière. C'est tout. Tout le monde n'arrêtait pas de dire, comme une évidence, dans 8 mois, c'est l'élection présidentielle, mais la droite ne savait pas qui n'a pas de leader, la gauche n'a pas de leader, et du coup, caracole en tête, le président et son parti qui est en place, et qui sort d'une crise...
Par défaut,
puisqu'il n'y a rien derrière. Voilà.
Je peux juste raconter une petite anecdote. Ça va fâcher mes deux
si
compères
ça fait,
en
si
face.
Si ça fait moins de 2 minutes,
moins de 30 secondes. Ah bon. Taubira s'est présentée 3 fois aux élections régionales en Guyane. Elle a un récit, elle a un imaginaire et elle avait une popularité extrême. Elle a perdu 3 fois contre Antoine Karam, mon cousin. 3 fois. Battue, laminée dans les élections.
C'est parce que
elle a perdu
trop
parce que les gens l'admiraient. Et voulait qu'elle soit députée,
c'était
qu'elle vienne.
C'était une élection régionale, vous l'avez
vienne, et qu'elle vienne, parce que, et qu'elle vienne officier dans
ça,
l'Hexagone.
Pour placer votre
mais
cousin.
Elle ne voulait pas, mais il ne voulait pas d'elle pour gérer la Guyane. Il ne voulait pas d'elle. Macron a réussi, pourquoi? Parce que Macron pensait qu'il allait sauver la France. Ministre de l'économie, fraîcheur, jeune, autre façon de faire de la politique.
Il avait une vision européiste, etc.
Ça n'est pas Zemmour. Zemmour est aujourd'hui marqué. Il est marqué sur un domaine et s'en sortira pas
de France. De Gaulle et tous les grands présidents.
Vous êtes très dissipé. Vous êtes très dissipé. Alors vous allez aller en cours de récréation.
Non,
et en attendant, on va parquer la pause pour le journal.
Touchez le cœur. De...
Mais vous allez y revenir tout à l'heure, Alexandre Devecchio, avec également Christian Proutot, fondateur du GIGN, avec Patrick Karam, le vice-président de Libre, et Aurélien Taché, député Nouveau Démocrate du Val d'Oise. Juste après le journal de 19h, on se retrouve pour parler de la gauche en chute libre dans ce sondage Ipsos. Et puis de Nicolas Sarkozy, car lui aussi a fait une séance dédicace. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec le rédacteur en chef au Figaro, Alexandre Devecchio, avec le fondateur du GIGN, Christian Proutot, Patrick Karam, que vous connaissez désormais très bien, vice-président de Libre, vice-président de la région Île-de-France.
Pour continuer à faire ma pub.
Oui, oui.
J'étais un inconnu.
Votre cousin,
voilà,
votre cousin aussi. Qu'est-ce qu'il est, votre cousin, déjà?
Il a battu
trois fois. Il était lui en Guadeloupe et il a battu trois
fois. Non, à Guyane. Trois fois en Guyane, Taubira.
Bah voilà. Et voilà. Député du Val d'Oise, Nouveau Démocrate, Aurélien Taché. Alors, reprenons le fameux sondage Ipsos de ce matin. Dans le Parisien, la liste est longue, on le disait avec Christian Proutot, effectivement, on a tous les cas de figure. Donc effectivement, c'est assez long. Zemmour à 15%, on vient d'en parler. Et la gauche, bah, c'est un peu la descente aux enfers. Hein. Regardez, on a 5,5% pour Anne Hidalgo dans tous les cas de figure, 1,5% pour Arnaud Montebourg, on a entre 9 et 9,5% pour Yannick Jadot selon les cas de figure. Elle est... Elle est où la gauche? Elle est verte en ce moment?
Alors d'abord,
Aurélien Taché.
D'abord, il y a
plus rouge ni rose.
Non, effectivement, je pense que oui, la gauche est verte.
La gauche est verte.
Oui.
La force motrice
de la gauche aujourd'hui, ouais. C'est l'écologie politique. La force motrice de cette tradition-là, elle se trouve aujourd'hui du côté de l'écologie avec les Verts, bien sûr, mais pas seulement. Moi, je co-préside un petit parti du Nouveau Démocrate qui travaillera avec cette formation. Il y en a d'autres, des formations politiques qui sont autour des Verts. Bref, c'est l'écologie politique qui va être le moteur à gauche. Maintenant, sur ce sondage, plusieurs choses. D'abord, beaucoup de Français ne répondent pas, ne se prononcent pas. On dit la France n'a jamais été aussi à droite. En réalité, il n'y a jamais eu autant d'indécis en France. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ne savent pas où se situer, qui ne savent plus trop ce que ça veut dire. Les repères sont brouillés. Ils ont entendu pendant 5 ans un président leur dire que la gauche et la droite n'existaient plus. Ils ont aujourd'hui des gens comme Montebourg qui vont à peu près répéter la même chose en disant de toute façon, le sujet, c'est plus ça, c'est la France, c'est je ne sais quoi, souverainiste de tout pays, unissez-vous. Donc effectivement, les gens sont un petit peu perdus. Mais quand on va replacer les choses, l'église au milieu du village, comme on dit, vous allez voir que ça va, la dynamique va se lancer. Yannick Jadot, 2 jours qu'il est désigné. Le rassemblement commence à s'opérer derrière lui, la dynamique commence à reprendre. Il était à 6 il y a une semaine, il passe à 9. Et vous allez voir que semaine après semaine, finalement, cette écologie politique, elle va remettre une dynamique à gauche.
Avec quel moyen?
Bah écoutez, quel moyen?
J'ai le droit de vous poser la question.
Quel moyen?
Ne balancez pas un écouté désagréable comme ça si je vous pose la question.
Mais non, pas du tout, mais quel moyen? Un très bon candidat à la présidentielle, une équipe, des parlementaires qui le soutiennent, des formations politiques qui se mettent derrière lui. Et puis, peut-être, un certain nombre de candidats, toutes candidats, qui vont finir par se dire qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi et qu'on est peut-être un petit peu trop nombreux à gauche et que s'il y a quelqu'un qui se détache comme Yannick Jadot, il faudra peut-être se demander si ça vaut le coup d'avoir autant de candidatures. Je pense à quelqu'un comme Arnaud Montebourg, je pense à peut-être à la maire de Paris, peut-être à plein de gens qui pourraient se dire que finalement, il y a une chance de gagner et que ce serait bête de la gâcher.
Avec Sandrine Rousseau aussi?
Écoutez, se sont vus, ça s'est bien passé. Il y a eu le lendemain un peu d'amertume. Vous perdez à 1%, forcément, je peux comprendre sur le plan humain ce que ça représente. Mais depuis, la réunion politique des forces écolos a été faite. Et maintenant, on avance ensemble.
La gauche, elle est verte, ouais, Patrick Caram.
Bon, ça, c'est une petite fable, hein, Aurélien. Moi, je le regrette d'ailleurs. Moi, j'aime bien quand un débat est structuré autour de la droite et de la gauche, parce que ça évite effectivement qu'on se perde dans des eaux un peu troubles. Moi, je pense qu'à gauche, il y a ce qu'on appelle le bal des égaux. Moi, je vois personne sortir. Personne, et la maire de Paris encore moins que les autres.
Quand vous dites ça.
Mais je le lui dis dans les yeux, c'est la maire de Paris qui sortirait de cette aventure-là, j'y crois pas une seconde. Ce serait non seulement pour elle une humiliation, mais un désastre politique.
Et faire moins de 5%, ce serait pas une humiliation.
Aujourd'hui, si vous voulez, elle peut toujours...
Enterrer le Parti Socialiste,
elle va vous répondre que tout le monde l'a donnée perdante face à la droite. Elle a gagné Paris une fois, elle a regagné 2 fois. Elle est comme ça. Elle est d'un optimisme un peu démesuré. Alors, moins 30% quand même. Aucun parti de gauche, aucun candidat de gauche ne dépasse 10%.
Ça, si, on contre, est à 9,5 là, avec
Yannick Jadot. Aucun ne dépasse 10%. Mmh. Et ensemble, ça fait tous les candidats réunis. 7 candidats, je crois, ou 8. J'en perds 7. Comme les jours de la semaine, on va les égrener le lundi, le mardi, bref, 7, ils ne dépassent pas 30%. La vérité, c'est qu'il y a un sujet à gauche, et je vais vous le dire maintenant, vous regardant dans les yeux. La gauche aujourd'hui est traversée par un courant idéologique qui fait des partis irréconciliables. Comment on peut travailler avec, quand on est soi-même, par exemple, comme Montebourg ou comme Valls, avec des idées sur la France, des idées sur la société, des idées qui sont finalement républicaines, comment ils peuvent travailler avec d'autres qui, eux, vont chasser sur les terres de l'islamisme, sur les
arrêtez
terres.
Avec ça,
mais c'est la vérité.
Vous n'avez
et vous
pas le
savez,
monopole de la France sur la... ni de la
mais
République.
Non, mais arrêtez
encore
avec
une fois,
ces
c'est
formules.
Pas parce qu'on développe c'est une autre vision de la France que la vôtre qu'on est pas républicain ou anti-français. Je suis désolé.
À votre âge, changez de registre.
Mais oui, mais bon.
Giscard, ça remonte à 74. Giscard Mitterrand, vous n'êtes pas Giscard et moi non plus.
Bon, c'est parce que la gauche...
On continue donc.
Et moi non plus.
Non, mais faut qu'on Aurélien Taché... Bien,
mais vous aimez les hommes...
Attendez, on ne peut pas parler tous en même temps.
Bon. Faut qu'Aurélien Taché se pose quand même de bonnes questions. Parce que très honnêtement, des gens comme moi qui sont par exemple d'outre-mer, instinctivement, on est plutôt à gauche. Mais quand on voit ce que devient la gauche, et là, je suis sarkozyste et pécressiste, hein, et 100% avec Pécresse. Je ne veux pas qu'il y ait de doute dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut plus voter à gauche en voyant ce qui se passe. Et quand on est pire que ça, voilà, vous savez ce qu'ils font à gauche quand vous venez de la diversité, quand vous venez d'outre-mer, Si vous ne venez pas à gauche, c'est que vous êtes des salauds, vous êtes des traîtres, vous trahissez votre camp et on vous fait des procès d'intention. Les attaques les plus violentes, c'est toujours contre ceux qui sont de la diversité, ceux qui sont d'outre-mer.
Droit de réponse et rapide d'Aurélien Attaché, et ensuite on aimerait bien écouter les autres.
Absolument pas là-dessus. Moi, je refuse qu'on assigne les gens dans leur identité. Alors, c'est valable pour leur conviction politique. Il n'y a pas de, n'importe quoi. Il n'y a aucune couleur pour être de gauche ou être de droite. Ça, ce n'est pas du tout le sujet. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, et ça ne vous étonnera pas, mais les hommes politiques qui vous plaisent à gauche sont ceux qui défendent des idées de droite. Valls ou Montebourg, qui les deux ont pris leur distance avec la gauche.
En Europe,
et ne sont
pas des idées de droite.
Est-ce que
ce sont des idées qui ont le vent en poupe en Europe.
Arrêtez,
la gauche
mort,
européenne,
ça.
C'est pas la gauche française.
Cette social-démocratie européenne, elle est morte. Enfin, elle n'existe plus. Je suis
la
désolé.
Gauche française, c'est la gauche archaïque, la gauche dinosaure.
Mais
c'est
non,
ça la vérité.
Non, mais
la social-démocratie en Europe, elle est morte. Regardez ce qui se passe en Allemagne.
Mais tous ceux qui étaient effectivement sur cette ligne de la troisième voie, du social-libéralisme ou autre, ils sont disparus. Le discours du SPD en Allemagne, c'est plus du tout le discours de Schröder à l'époque. Ça a bien changé. Il faut arrêter avec ça. On n'est vraiment plus du tout là-dessus. En revanche, moi, je vois bien ce que vous voulez dire, Patrick Karam. Vous dites, les gens se détournent de la gauche parce qu'aujourd'hui, à gauche, le combat contre les discriminations, contre un certain nombre de choses, serait trop mis en avant. C'est tout le contraire.
C'est pas
il y a
du tout
une partie des catégories populaires qui a abandonné la gauche parce que justement, elle n'était plus ferme.
Mais il faut qu'il commence par être mon perroquet en déformant
non,
ce
non,
que
non,
je
mais
dis.
Alors, juste en trois mots, la gauche, encore une fois, elle ne s'est pas préoccupée du climat. Elle ne s'est pas préoccupée des discriminations. Et sur la justice sociale, bon an, mal an, la troisième voie que vous évoquez, elle s'est finalement mise à ressembler à la droite. Donc les gens ont dit, ça ne sert à rien la gauche. Si demain, on a un programme qui est concret sur ces questions, encore une fois, l'éducation, ça intéresse les gens. Qui en parle dans cette campagne? La préoccupation liée au climat, ça intéresse les gens. Et l'écologie fera des propositions.
Bien.
Et les injustices, eh ben, vous verrez que la gauche, elle va reprendre
bien.
Du poil de la
lutte. Lutter contre les discriminations, c'est pas faire de la partition des Français, les séparer entre les couleurs et les origines.
Avant qu'Alexandre Devecchio ne se noie dans son verre d'eau, j'aimerais bien l'entendre aussi là-dessus.
La question de départ, c'était est-ce que la gauche peut survivre en quelque sorte? Moi, j'en reviens, avant la pause, on parlait des grands récits, et je pense que et la gauche et la droite, en tout cas la gauche et la droite partidaire, le PS et l'UMP, se sont dilués dans la technocratie. Je pense que depuis la chute du mur de Berlin, et c'est vrai que ça a été encore pire à gauche parce qu'il y avait l'espérance messianiste, la croyance au communisme, etc., tout leur logiciel a été ébranlé. Finalement, ils ont perdu leur idéologie. Et là, on est à la fin de ce cycle-là et on a une gauche qui est en train de disparaître. Et là où je pourrais être assez d'accord avec Aurélien Taché, c'est
encore
que je pense que...
Non,
oui,
mais ça devient une habitude.
Alors, je ne sais pas si Jadot a des chances. Mais je pense que la gauche peut renaître avec l'écologie parce qu'effectivement, il y a un grand récit, moi, qui parfois m'effraie par certains aspects, mais il y a une idéologie, il y a quelque chose qui fait rêver une partie de la jeunesse.
Pourquoi ce récit-là, Alexandre Devecchio, pourquoi ce récit écologiste n'appartiendrait que au parti écologiste?
Ah, mais moi, je pense qu'il n'appartient pas forcément que au parti écologiste. Et d'ailleurs, le parti écologiste a fait souvent des scores un peu dérisoires. Mais je dis simplement la gauche, puisqu'elle a investi ce terrain de l'écologie et que la droite ne l'a pas investi, et peut-être pas assez d'ailleurs, a un récit qui peut lui permettre peut-être de se restructurer, de renaître. Mais à terme, je ne suis pas sûr que Jadot soit celui qui va faire renaître ça.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'a pas forcément l'appareil politique, parce que les forces de gauche sont dispersées pour le moment, mais il est possible quand même, et là je rejoins encore Aurélien Attaché, moi je ne crois pas beaucoup que la candidature d'Hidalgo va durer, il est possible qu'il y ait quand même moins de candidats à terme et qu'il fasse un score autour de 15% par exemple, et il se peut que de la qualification pour le second tour, que
Christian
tout le monde
Proto.
Soit à peu près à 15%
dans une
élection éclatée.
Si on parle uniquement de la gauche, on voit bien qu'effectivement, celui qui pourra faire quelque chose, c'est à travers des idées nouvelles, mais qui sont portées par une grosse partie de la jeunesse, c'est les idées sur l'écologie. Même si ça ne me fait pas plaisir de le dire, parce que je trouve que, comme je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, l'écologie, ça ne peut pas être qu'un projet politique qui soit porté par un parti.
Mais c'est moi qui le dis.
Ce devrait être...
Vous serez plus invité. En tout cas, j'ai posé la question, puisque je ne suis pas moi-même débatteur.
Pour moi, ce devrait être quelque chose qui soit une, pour tous les partis, quelque chose qui soit porté.
Non, mais justement, non, mais Aurélien, on se dise la vérité.
Je peux finir un tout petit peu. Donc, à partir du moment où on sait le poids que prend le parti, les partis dans ce parti politique, la gauche qui n'a pas d'identité, plus d'identité à force d'avoir trop de candidats et qui n'a pas de projet politique, seul, pour le moment, semble porteur. Le projet écologiste. Voilà.
Elle a trop de candidats, à mon avis, parce qu'elle n'a pas d'identité. C'est presque l'inverse. Elle n'a pas d'identité parce qu'elle a trop de candidats, mais je pense qu'il n'y a pas de candidat naturel parce que personne n'est porteur d'une identité forte.
Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon,
idem
Yannick
pour la droite,
Jadot. Comment ?
Et idem pour la droite. La droite a beaucoup de candidats.
J'en ai loupé un, non, je crois
pas. Parce qu'elle n'a pas d'identité
forte. Alors, non, quand même.
Mélenchon en décembre, il paraît.
Jadot, je vois sa candidature, honnêtement, avec beaucoup de bienveillance.
Patrick Carin.
Parce que pour moi, Jadot, ça vaut mieux que Rousseau. Franchement, Rousseau était en train de cliver, séparer le pays, diviser les pays sur des bases et une empreinte à venir. Non, mais c'est pas fini. Parce qu'elle va être récupérée par LFI. Mais laissons ça.
Elle va être récupérée par LFI, qui est en train aujourd'hui de lui tendre la main.
J'ai entendu des déclarations de différents porte-paroles de LFI. C'est leur rêve, effectivement, de faire cette jonction sur la radicalité. Mais ce que je veux dire...
Ça veut dire quoi, si j'ai pas gagné, du coup, je vais chez LFI?
C'est quand même très curieux, si vous voulez, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui préoccupe les Français, finalement?
C'est le pouvoir d'achat.
C'est des pas thématiques, uniquement. Normalement, qui peuvent être, qui relèvent de la gauche. La justice sociale, l'écologie, ce sont des thématiques de gauche. Pas seulement de gauche, mais sur lesquelles la gauche a toujours eu une empreinte un peu plus affichée à l'extérieur. Mmh. Or, malgré la préoccupation sur ces thématiques-là, les partis qui sont les candidats qui sont aujourd'hui en liste n'arrivent pas à exister et ensemble vous ne faites que 30%. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez raté une marche et que vous devriez peut-être vous interroger sur les doctrines que vous n'avez pas développées.
C'est vrai, mais c'est vrai aussi, Patrick Arme, pour la droite.
Réponse d'Aurélien Taché juste après la publicité. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Très dissipé. Très, très dissipé. Et Patrick Caram en particulier. Très dissipé, vice-président de Libre et de la région Île-de-France. Aurélien Taché est là également. Nouveau démocrate, député du Val-d'Oise. Le fondateur du GIGN, Christian Proutot. Et mon collègue du Figaro, Alexandre Devecchio. On parlait de la gauche, de ce sondage Ipsos, qui, je vous le rappelle, met Zemmour à 15% d'intention de vote au premier tour. Et la gauche, on est à 5,5% pour Madame Hidalgo et à environ 9 ou 9,5% pour Yannick Jadot. Pendant ce temps, on a un congrès de l'AREM à Avignon et voilà ce que dit le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Il y a mes anciens camarades socialistes, mais je suis ministre en charge de la Santé, je ne peux décemment pas tirer sur une ambulance.
Voilà, ça c'est pour la... le petit tacle d'Olivier Véran.
Quel élégant, Aurélien Taché. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on a dit juste avant sur le niveau de la gauche. Bon, d'abord, la gauche, il faut quand même admettre qu'elle a été sonnée en 2017.
C'est une ambulance, donc.
Mais non, mais Emmanuel Macron, La République En Marche, à un moment...
Vous énervez pas, sinon je vous parle de Sarah Knafo.
S'il vous plaît, est-ce que je peux répondre sur Emmanuel Macron?
On va finir par croire qu'il y a quelque chose. Aurélien, qu'est-ce qu'il y a alors? Parce que
Je ne peux pas dire. Je n'ai rien à dire que ce que j'ai déjà dit. Je vois bien que vous voudriez des informations supplémentaires dont je ne dispose pas.
J'ai entendu, je ne peux pas dire.
En 2017, Emmanuel Macron a fait croire à des gens dont je fais partie qu'il était la nouvelle gauche. Bon, très bien, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Malheureusement, ça n'a pas permis à la gauche dite historique, partisane, les socialistes ou d'autres, de se remettre sérieusement à travailler, de se remettre en question et de construire quelque chose. Donc on a, pendant effectivement tout ce quinquennat, eu une gauche très faible, simplement incarnée par la frange peut-être la plus radicale, qui était celle de Jean-Luc Mélenchon, qui était un peu audible. Et ça s'est limité à ça. Aujourd'hui, les choses commencent évidemment à changer parce que la plupart des gens de gauche se sont rendus compte que Macron n'était pas de gauche. Jean-Luc Mélenchon ne peut parler qu'à une partie de l'électorat et pas aux autres. Et l'écologie politique commence à arriver à proposer autre chose. Et elle a fait, l'écologie politique aussi, quelque chose pour 2022 que personne d'autre n'a fait. Elle a fait une primaire. Elle a organisé un exercice démocratique. Elle a montré des débats de qualité où on a parlé de tout un tas de sujets intéressants. Elle a fait déplacer 120 000 personnes. Et ça va donner une dynamique politique. Et pourquoi l'environnement
finalement, ou la préservation de la planète, aujourd'hui, il vaut mieux que ce soit les écologistes qui s'en occupent. Bah, je suis d'accord que ça pourrait être intéressant que d'autres formations politiques ou d'autres gouvernements s'en occupent. Sauf que depuis 20 ans, ça n'a pas été le cas. Sous Macron, on a eu Hulot. Quel plus grand écolo que Hulot ? Quel résultat concret sur les pesticides, sur tout un tas de sujets, sur la rénovation des logements, sur rien du tout. Auparavant, sous François Hollande, les écologistes se sont barrés au milieu du quinquennat tellement ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'avancée. Donc vous voyez bien que le problème, c'est que quand les écologistes ne gouvernent pas, eh bien, il ne se passe rien sur la question de l'écologie.
En même temps, moi, vous avez dit qu'il y a eu des débats passionnants, etc. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une aspiration dans le pays, une partie de la jeunesse, à plus d'écologie. Mais moi, ce que j'ai trouvé décevant dans ces débats, c'est que finalement, les écolos ont très peu parlé d'écologie. Quand Sandrine Rousseau, pardonnez-moi, vous allez dire que je caricature, mais nous parle de son homme déconstruit, je pense que ce n'est pas forcément le débat très profond sur l'écologie, sur dans un monde de libre-échange absolu, comment on fait pour relocaliser un certain nombre de... J'aurais bien aimé entendre
les écolos. Vous vous intéressez à l'identité, écolos, vous, Alexandre de Vecchio, vous n'allez pas reprocher qu'on débatte sur l'identité, puisque ça vous intéresse.
Mais je vous dis... vous débattez effectivement sur l'identité avec une vision ultra-communautariste qui me fait peur. Les écolos parlent que de ça, donc c'est vrai que c'est un problème.
Vous avez bien suivi tous les débats. Ça dépend aussi des questions que les journalistes en posent.
Le choix de Jadot devrait vous permettre d'être moins caricatural qu'avec
Christian Proutot.
Mais pour en revenir à l'écologie, si effectivement un avenir, alors qu'on est face à une écologie qui prône, même s'ils disent plus le mot parce qu'ils savent que ça fait peur, la décroissance, ça va poser problème. Parce que quand on voit ce qui s'est passé en Allemagne, pour tout d'un coup, après des alliances qui se sont faites, des alliances qui étaient pour conserver le pouvoir avec... avec le pouvoir qui était en place, on a vu que la fermeture des centrales pose un problème écologique beaucoup plus important que ce que l'on combat actuellement par rapport à ce qui semble être l'alpha et l'oméga de l'écologie, c'est-à-dire le nucléaire. Donc si c'est ça notre avenir, ça va poser un problème pour tous les autres problèmes que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est le pouvoir d'achat, l'emploi et tout. Donc pour que les gens travaillent, pour que les gens fonctionnent, il faut avoir malgré tout un fonctionnement économique qui marche, que ça plaise ou non, avec de l'énergie. Après, le choix de l'énergie, il ne peut être que progressif. On a vu ce que ça a donné quand on a voulu imposer de force au forceps, après le départ de Hulot, la décroissance... La transition énergétique. On a abouti à quoi ? On a abouti à une jacquerie avec les gilets jaunes, parce qu'on a tapé que sur le seul truc que l'on connaît, c'est-à-dire l'énergie.
D'ailleurs, la question de l'énergie, avec l'augmentation du prix, va être peut-être un des thèmes de la campagne.
Ça va être crucial, vous voulez
dire. Ça va être crucial, et ça va peut-être aussi rebattre les cartes, mettre en difficulté les écolos.
Mais justement, moi, ce que je reproche aux écologistes, et je le vis au quotidien, à la région, donc moi, pardon, mais j'ai une vision qui vient de ce que
mon
environnement régional. Ils ne s'occupent pas tellement d'écologie. Ils s'occupent de tout sauf d'écologie. En fait, ça fait un certain nombre d'années qu'ils ont pris en chasse les sujets de société. Et c'est vrai que tous les partis politiques aujourd'hui travaillent sur l'écologie. La vérité, c'est qu'ils s'appellent parti écologiste, mais c'est de la fumisterie. Ils s'occupent de tout sauf d'écologie. Et moi, je vais leur poser une question, et poser la question aussi à Aurélien Taché. La France, par rapport à l'Allemagne et à d'autres pays européens, la France est dans une logique de décarbonisation. Parce que nous avons du nucléaire, 93% de notre électricité, c'est le nucléaire. Vous plaidez à la fois pour les voitures électriques, d'accord, j'entends, mais en même temps la fermeture des centrales. Et vous faites comment équation-là? Lorsque vous touchez au nucléaire aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère, la moins chère à produire. Eh bien, vous accroissez le coût de l'énergie. Vous faites comment? Vous touchez, vous amputez le pouvoir d'achat des gens. Vous êtes face à une contradiction majeure et vous n'êtes pas prêt de vous en sortir.
Réponse d'Aurélien, justement sur ce sujet.
Plusieurs choses. D'abord, que les écologistes se mêlent de toutes les questions, c'est normal. Quand on veut gouverner, ils ne vont pas, encore une fois, s'occuper des sujets liés à l'environnement, même si je le redis, à mon avis, c'est eux les plus crédibles et les plus courageux pour avancer sur cette question. Et c'est en partie pourquoi je les ai rejoints. Ce que disait Christian Proustot sur la décroissance, je le rejoins. Moi, je ne suis pas du tout décroissant. Alors là, franchement, moi, je viens d'une gauche qui se bat pour effectivement la justice sociale, pour que nos enfants vivent mieux, pour que toutes les catégories populaires vivent mieux. Jamais je n'irai dans des logiques de décroissance. Simplement, considérer que c'est soit la décroissance, soit le statu quo, ça ne me semble pas acceptable non plus. On peut et on doit réaliser les investissements nécessaires pour aller effectivement vers les énergies renouvelables, pour aller vers une agriculture qui respecte la terre, le vivant, qui ne soit plus simplement ultra-productiviste. Le nucléaire,
oui.
Évidemment qu'il faut en sortir, mais progressivement. Il ne s'agit pas de dire qu'on va fermer les centrales demain.
Mais pour le remplacer par quoi ?
Eh bien, pour le remplacer par tout un tas d'énergies, la géothermie, l'éolien, tout un tas de choses qui peuvent effectivement... Regardez, en Allemagne, on a quand même aujourd'hui...
Oui,
les centrales à charbon.
On remet en fonctionnement des centrales
de l'énergie, plus de 50% de l'énergie allemande n'est ni du charbon, ni du nucléaire. Non, c'est la preuve qu'on peut avancer. C'est quoi, moi, je ne veux pas... C'est renouvelable, le fameux mix énergétique.
Avec tout ce qui est éolien, par exemple, qui est en Chine, avec des métaux rares, etc., ça pollue...
D'abord, vous exploitez des pays, vous exploitez des enfants, et deuxièmement, parce que c'est les enfants qui vont chercher dans les mines ces métaux rares. Voilà la vérité. Et je vais vous dire, les levées de boucliers que vous avez, vous devez assumer quand vous dites je veux des éoliennes sur mon territoire. Levées de boucliers quand vous les mettez en mer, parce que là vous avez les pêcheurs, mais vous avez une conjonction entre certains écologistes aujourd'hui. Et j'ai vu ça la semaine dernière sur des éoliennes du côté, je crois, du Havre. Vous aviez une conjonction entre des écolos et des pêcheurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pardon, vous êtes face à des contradictions que vous n'avez
pas résolues.
Mais vous
aussi, Patrick Caram, parce que décarboner l'économie, ça ne se fait pas tout seul. En 2050, on va avoir une augmentation de plusieurs degrés de la température sur le continent européen.
Et c'est la France qui est responsable.
Ah ben alors, qu'est-ce qu'on fait alors ?
1% de population, mais vous savez très bien.
Je croyais que vous aviez une grande idée de la France, monsieur Caram. Je croyais que vous vouliez que la France donne l'exemple, soit une grande nation. Ça, c'est valable quand ça vous arrange. Mais sur la question de l'écologie, ça ne vous arrange pas.
Vous êtes en train de nous faire la fable du petit chaperon rouge.
Et vous proposez le statu quo, et avec vous, c'est le climat qui
fait pas la France qui pollue le monde.
En tout cas, on a vu que la gauche était verte, puisque tout nous ramène à l'écologie en parlant de la gauche. Vous restez avec nous, Alexandre Devecchio, Christian Proutot, Patrick Caram et Aurélien Taché sont là. Ils sont en forme et dans un instant, on parle de Nicolas Sarkozy. Ce sont les toutes premières déclarations de l'ancien président de la République après sa condamnation et justement l'appel qu'il fait de cette condamnation dans l'affaire Big Manu. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec Alexandre Devecchio du Figaro, Christian Proutot, vous le connaissez, fondateur du GIGN, avec le vice-président libre de la région Île-de-France, Patrick Caram, et le député Nouveau Démocrate du Val-d'Oise, Aurélien Taché. Ce sont les toutes premières déclarations de Nicolas Sarkozy après sa condamnation à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion, l'affaire du financement de sa campagne présidentielle en 2012, condamnation contre laquelle il a interjeté appel en précisant qu'il y avait erreur sur le droit. Dédicace ce matin à la librairie Lamartine à Paris dans le 16e. Marion Gauthier a tendu le micro pour Europe 1.
C'est merveilleux un samedi un peu pluvieux d'octobre de voir cet enthousiasme, cette joie d'avoir une queue de 400 mètres. Pour le reste, on va se battre. Moi, je ne veux pas faire un bras de fer avec qui que ce soit. Je veux l'application du droit. Et vous savez, les gens, on ne leur raconte jamais d'histoire. Il faut toujours dire la vérité. Et les gens comprennent. Le bonheur n'est jamais dans l'épreuve évitée, il est toujours dans l'épreuve surmontée. Voilà, je suis confiant de ça. La vérité va finir par triompher, j'en suis persuadé. Il faut être calme.
Il faut être calme. Les gens savent, les gens ne sont pas dupes, dit Nicolas Sarkozy.
Moi, je vais vous dire, je l'ai vu il y a 10 jours en pleine forme, quelques jours avant le... c'était même pas la 10 jours, c'était le lundi. Bien, moi je suis très en colère. Lui, il est peut-être calme, mais moi, je suis très en colère. Et je vais vous dire pourquoi je suis en colère. D'abord, toute mon amitié et tout mon soutien au président Sarkozy. Je vais vous dire pourquoi je suis en colère. Parce qu'on est dans une justice d'exception. D'abord, sur cette procédure-là, et on peut parler des autres procédures judiciaires, sur cette procédure, quand vous avez deux juges sur trois qui vous disent qu'il ne faut pas y aller parce qu'on n'est pas dans une culpabilité, il n'y a pas eu de détournement de fonds, etc. Et c'est ça qu'on doit juger. Et que vous avez un juge, le juge Tourneur, qui vous dit non, mais ce qu'on va voir et ce qu'on va juger, c'est le dépassement de fonds. Deux juges sur trois qui disent non et un qui dit oui et on y va, c'est du jamais vu dans les procédures judiciaires. Deuxième chose, l'autorité de la chose jugée. Le Conseil constitutionnel a déjà sanctionné et il y a eu le Sarkoton et on a payé chacun pour faire rembourser cet argent-là. Le Conseil constitutionnel, c'est l'autorité suprême, deux juges, l'autorité suprême,
Et on rejoue la musique, comme si ça ne s'était pas passé. Or, ça ne se fait jamais en droit français. Troisième chose, peine pénale. La peine maximale, c'est 1 an, on lui donne, c'est un récidiviste, il pose des problèmes à la société, on lui inflige la peine maximum. Moi, je n'oublie pas que Sarkozy, le président Sarkozy, était en bras de fer avec les juges pendant son quinquennat, quand il était ministre de l'Intérieur, il les a traités de petits pois, que pendant tout son quinquennat, il a eu à affronter des juges, et qu'à la fin, entre les deux tours de l'élection présidentielle avec François Hollande, vous avez le syndicat le plus important de la magistrature qui a demandé à voter Hollande. On n'avait jamais vu ça. Et il y a une question que ces juges n'abordent pas. Et moi, je voudrais qu'ils répondent à cette question. Ce procès-là, c'était quand même pour ça. Où est l'argent ? On sait, il a fait 45 meetings. Hollande en a fait 40. Hollande est resté dans les clous. Nous, on dit qu'il a fait 2 fois plus. Ça veut dire qu'il y a une surfacturation par une entreprise privée. Donc, où est passé cet argent ? C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. À aller chercher cet argent. Et moi, la question que je pose aux juges, c'est pourquoi vous n'êtes pas allé vous intéresser à la question centrale, ce détournement de fonds publics par une entreprise privée ?
Aurélien Taché.
Non, mais alors, moi, je ne me réjouis jamais de la condamnation de personne et j'essaie de ne pas trop interférer dans le cours de la justice parce que je pense qu'en tant qu'élu, c'est ça qu'on doit faire. Maintenant, je suis désolé, mais Patrick Caram, je ne peux pas vous laisser mettre la justice en cause comme ça. Enfin, je veux dire, la justice, elle fait son travail.
Répondez-moi sur chacun des points.
Non, mais d'abord, excusez-moi, je suis ni avocat ni procureur de Nicolas Sarkozy.
Alors, dans ce cas,
je vais simplement vous dire quelque chose, c'est qu'il y a une loi qui s'applique pour tout le monde qui est un plafond de dépenses pour une campagne électorale. Il est doublé, la loi est violée, il y a une justice indépendante qui se prononce sur cette affaire, elle prononce une peine que je n'ai pas à commenter, je peux comprendre que par amitié vous trouviez la peine dure, ça c'est votre histoire, c'est
l'autorité
pas la mienne,
de la chose
mais en tout cas mettre en cause la justice comme ça, ça n'est pas bien, véritablement, parce que la justice de ce pays, elle fait son travail, il faut respecter son indépendance.
Alors, moi, je vais aller encore plus loin, parce que je suis connu pour ne pas faire de la langue de bois, je ne suis pas un politique comme vous, je n'ai pas tété aux mamelles de la politique, je suis un militant, chrétien d'Orient, je suis d'abord un militant,
et puis je ne suis pas non plus un professionnel de la politique.
Moi, j'en ai marre. Toute la société française est contrôlée et peut être sanctionnée quand il y a eu des défaillances. Vous êtes dans une entreprise, vous détournez des fonds, vous faites une connerie, ben vous êtes sanctionné. Vous êtes un policier, vous commettez des violences, là encore, vous avez des procédures qui s'ouvrent contre vous, etc., etc. Toute la société est contrôlée, tous sauf un, ben, les juges. Les juges, il y a une quasi-impunité et il faut des rares extrêmes, des fautes extrêmement graves et rarissime pour qu'il puisse être éventuellement sanctionné. C'est ça le problème aujourd'hui. Bon, c'est l'impunité.
L'indépendance de la justice est importante.
Mais l'impunité, ça ne veut rien dire indépendance quand on se trompe.
Je trouve regrettable que vous disiez que vous citiez des juges en disant voilà, il y a 2 juges qui étaient. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce que je trouve surprenant, c'est qu'on puisse prendre ce type d'argumentaire. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fallu ? Il aurait fallu que ce soit les gens qui ont construit un système dans un but louable dans leur esprit, que leur champion gagne, il n'y ait qu'eux qui payent. C'est ça qui me choque. Et ça me choque autant que me choque également le fait qu'on puisse condamner un président. On aurait pu le condamner pour le principe, mais il y a quelque chose qui est allé un peu plus loin. Mais les juges qui l'ont condamné, ce n'est pas les mêmes que ceux qui ont fait l'enquête. C'est ça qui pose problème. Et on ne peut pas remettre ça en cause. Je suis désolé avec vous. Si je trouve qu'effectivement, atteindre la personnalité du président de la République,
j'ai posé des questions juridiques. Posé des questions juridiques.
Écoutez, mais ce sont les questions que pose Nicolas Sarkozy lui-même.
Mais oui, il a raison de les poser.
Ces questions, on verra, puisqu'il a fait...
Il a interjeté
appel. On verra ce qui sera dit. Là, on est par rapport à ce que l'on sait et ce qui a été annoncé, ce qui a été dit. Parce qu'il y a un jugement qui est... Ce jugement... Il est étayé, le jugement. Simplement, je trouve surprenant qu'on puisse contester le fait qu'il n'y ait pas égalité sont mises en place et qu'un dépassement
dis. Je dis qu'il y a une justice d'exception. Pour le président
les
de la République.
Non,
mais
ne pas dire ça.
Mais vous le voyez bien. Mais je l'ai. Alors justement, arrêtez de personnaliser les choses. Lorsqu'il y a 2 semaines, on a agressé des policiers et que les délinquants s'en tirent avec un non-lieu. alors même que la culpabilité des auteurs est prouvée, ça ne vous choque pas, ça.
Mais arrêtez de faire des choses comme ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que
pareil, la loi, c'est pour certains, pas pour d'autres.
L'immense majorité des juges font bien leur boulot et ils sont structurés et il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez avoir un certain nombre de personnes qui sont dans un dogme, dans une vengeance personnelle, peut-être, ou dans d'autres considérations. Et là-dessus, il faut quand même se poser des questions.
Mais les gens qui sont sortis avec un papier qui n'avait pas leur dessus, ils ont pris 135 euros. Arrêtez.
Et vous pouvez aussi avoir un Nicolas Sarkozy qui n'a pas respecté la loi et qui est puni pour ça. Désolé.
Ouais, alors, Alexandre Devecchio. Bon,
moi, je suis attaché à l'indépendance de la justice.
Nous sommes tous
attachés aussi,
à l'indépendance.
Et là, je vais vous rejoindre, Patrick Caram, à la séparation des pouvoirs, d'une part, et à l'impartialité de la justice. Donc, elle peut être indépendante et ne pas être impartiale, être politisée. On a vu le mur des cons. Ensuite, sur la séparation des pouvoirs, moi je trouve qu'elle interfère quand même beaucoup dans la politique en ce moment, y compris en période de campagne électorale. Je ne rappellerai pas l'affaire Fillon. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même un problème avec la justice en France qui interpelle les citoyens. Alors, quoi qu'on pense, est-ce qu'il fallait une condamnation symbolique ? Peut-être. Je ne suis pas sûr, parce qu'effectivement, il avait été déjà jugé par le Conseil constitutionnel, mais pourquoi pas ? Mais moi, ça me choque quand même qu'on veuille mettre un bracelet électronique à un ancien président de la République. Quand, dans le même temps, et c'est ça qui ne peut pas être compris par les citoyens, quelqu'un qui incendie Notre-Dame de Nantes, qui est sans papier, n'est pas expulsé, est relâché, et tue un prêtre. Et quand c'est bien pire. Si, parce que Nicolas Sarkozy, admettons qu'il ait commis une faute. Je suis pas juge. Est-ce qu'il représente aujourd'hui un danger pour la société? Franchement, vous croyez qu'il faut l'enfermer, lui mettre un bracelet électronique?
C'est une chose. S'il vous plaît,
par contre, Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, qui fait pas une journée de prison, ça me choque beaucoup plus.
Christian Proutot.
Moi, je ne voudrais pas qu'on mélange tous les sujets pour en excuser ou en exclure un autre. Il y a un problème qui a été jugé. Ce problème, il met en évidence une triche électorale au niveau financier, par rapport à des règles qui sont
mises en évidence par le Conseil constitutionnel.
Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce que je regrette, c'est qu'à aucun moment, le président de la République, qui était le premier bénéficiaire de cette affaire, a à un moment eu une pensée pour tous les gens qui avaient ramé pour lui. C'est ça que je regrette. Et je pense que dans le jugement tel qu'il a pu se produire, j'étais pas à la place des juges, je pense que peut-être ça a compté. Surtout que des gens sont venus qu'il y avait un problème de dépassement.
Monsieur Proutot, on parle...
Mais moi, je parle de ça,
non,
c'est
mais
tout.
Je vais vous poser une question, mais pardon. La vraie question dans cette affaire-là, c'est la surfacturation. On est tous d'accord.
Oui, mais
je vous
pourquoi...
ai dit, Hollande a fait 40 meetings, Nicolas Sarkozy a fait 45, on peut pas comprendre qu'il y ait une facture multipliée par deux. S'il y a une facture multipliée par deux, c'est parce qu'il y a eu des surfacturations de prestations. Et moi, toute la question que...
On n'aurait
peut-être pas rentré dans le détail du sujet. Moi, j'aimerais bien vous interroger quand même sur une chose, parce que j'ai entendu ni Aurélien Taché ni Alexandre Devecchio là-dessus. Quand Nicolas Sarkozy, vous l'avez entendu dans le sonore de Marion Gauthier, quand Nicolas Sarkozy dit « les gens savent, les gens ne sont pas dupes », comment est-ce que vous interprétez cette sérénité qui, à la fois, n'en est peut-être pas forcément une?
Je pense qu'il est rassénéré parce qu'il a eu un bel accueil au moment de sa signature. Il fait un peu de populisme et de tous les hommes politiques qu'on fait en fond. Moi, ça me choque pas. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, je le disais, sur la séparation des pouvoirs. Moi, je crois qu'il y a une lutte de pouvoirs. Et c'est pas forcément...
Mais est-ce qu'il ne dit pas...
Seulement des juges...
Est-ce qu'il ne dit pas... Est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas en train de dire « les gens savent que... »
Que la justice n'est pas impartiale.
Que la justice n'est pas impartiale.
Je pense qu'il y a une
les gens
des...
savent que...
Il y a une partie des Français qui se posent...
Il y a pas de tricherie, les gens savent, etc.
Il y a une partie des Français qui... En tout cas, il y a une partie des Français qui se posent la question. Je reviens sur le mur des cons, qui épinglait des politiques, tous de droite.
Mais
qui aussi des familles de victimes, ce qui est encore plus choquant. Donc que la justice soit idéologique, c'est un fait. Mais je crois que ça dépasse encore les juges rouges, si vous voulez, contre la droite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une lutte de pouvoir. Et c'est un peu de la faute des politiques aussi. Bon. Ils ont laissé une partie de leur pouvoir au droit. En fait, et aujourd'hui, les juges, je pense qu'ils ont une supériorité morale et prennent du plaisir aussi à montrer qu'ils sont plus puissants que les politiques et qu'ils vont les rappeler à la loi. Et moi, je trouve que c'est pas ça dans une démocratie.
Leur plus grand pouvoir, c'est l'inamovibilité. Hein, c'est le fait qu'ils soient inamovibles.
Oui, mais c'est tout à fait logique parce qu'encore une fois, on a besoin pour la justice...
Dans une logique de séparation des pouvoirs.
Tout à fait,
bien
on
ne
peut pas avoir un gouvernement et des ministres qui vont donner des ordres aux juges. Sinon, évidemment, personne ne sera jamais condamné du côté du pouvoir. Ça, c'est évident. Hein, donc, il y a quand même quelque chose à respecter. Vous savez ce qui fait beaucoup beaucoup de mal à la démocratie aussi. Et ce que les Français ne supportent plus, c'est d'avoir le sentiment qu'il y a une impunité pour certains. Vous avez égrené, un certain nombre de faits terribles à chaque fois qu'il a fallu.
Où il y a eu impunité.
Non, mais attendez. Vous avez égrené un certain nombre de faits terribles à chaque fois là, que vous avez voulu prendre fait et cause pour Nicolas Sarkozy, en ciblant en plus à chaque fois, évidemment, des gens qui sont plutôt issus d'immigration haute. Ne vous étonnez pas pourquoi Éric Zemmour monte, hein, Patrick Karam, si on prend. Mais vous savez, vous lisez un peu la presse quotidienne régionale tous les jours, je suis sûr que vous le faites, des faits terribles, il y en a plein tous les jours, et pas qu'avec des gens issus de l'immigration.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les partis de gauche.
Pourquoi
vous disiez ça?
C'est contre-productif de parler en même temps.
Voilà, je peux terminer. Moi, je pense que c'est quand même un petit peu à dessein. Vous me répondrez si ce n'est pas le cas. Très bien.
Volontiers.
Ensuite, il y a quelque chose dans ce pays qui ne va pas du tout, c'est le fait que les gens aient l'impression que les puissants, la justice ne s'applique pas à eux. Et la droite, qui ne passe son temps à nous parler d'ordre, d'autorité, de respect de la loi, dès qu'on attaque effectivement l'un de ses représentants, ou dès qu'il s'agit d'une certaine délinquance, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Est-ce qu'il faut lui mettre un bracelet électronique? Est-ce qu'il représente une menace pour la société? Donc là, il y aurait une forme d'impunité. Vous savez, ça, les Français, ils ne le supportent plus. Ils veulent que la loi s'applique à tous et que les sanctions soient pour tous les mêmes. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire pour savoir si Nicolas Sarkozy doit avoir un bracelet électronique ou pas. En tout cas, ce n'est pas parce que c'est Nicolas Sarkozy qu'on devrait l'exonérer de quoi que ce soit. Soit à un moment, c'est l'égalité devant la loi, soit vous verrez que les Français.
Une courte réponse, parce que c'est bientôt la fin de l'émission.
Ça n'est qu'un début.
Non, mais vous êtes plutôt contre les peines de prison, vous êtes pour les éviter. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux éviter d'encombrer les prisons? Non, il ne sera pas en prison, il sera avec un bracelet électronique. C'est vrai, mais on en a mis d'autres.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque l'appel est suspensif.
Il y a là-dedans une forme d'humiliation qui, à mon avis, n'était pas nécessaire et ne sert pas la justice. Quant au fait que je stigmatiserais les immigrés, je n'y peux rien. Sur l'affaire Sarah Halimi, l'assassin criait « Allahu Akbar ». Et ce que je voulais montrer, c'est l'extrême gravité de certains faits qui sont impunis et qui sont des réelles menaces pour la société. Je pense que les gens n'ont pas peur de la...
Vous pourriez diversifier vos exemples, mais les gens sont très énervés contre
la délinquance en col blanc, mais ils n'ont pas peur de la délinquance en col blanc. Ils n'ont pas peur d'être agressés par des délinquants en col blanc.
Ouais, 10 secondes. Moi, je vais élever un peu le débat. 9. Moi, je vais vous dire ce qui fait du mal à la France. C'est qu'on considère que chaque fois qu'on parle des délinquants étrangers, d'origine étrangère, c'est qu'on stigmatise tous les étrangers, ou tous les Français d'origine étrangère, ou tous les Français d'origine ultramarine. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle d'eux, qu'on les stigmatise, qu'on les foute en tôle, et qu'on n'en parle plus. Et arrêtez de prendre leur défense, et arrêtez de considérer que les montrer du doigt, c'est montrer du doigt tous les Français. En faisant ça, vous nous assimilez à eux. Non, je vous interdis de parler de moi quand vous parlez des étrangers.
Je vous interdis de parler des Brésiliens
quand vous parlez des autres.
Merci
vous entendez
à vous
ce
quatre.
Que je vous dis.
Oui,
mais moi, je ne parlais pas de vous.
Merci à vous quatre. Merci à Aurélien Taché, Patrick Karam, Christian Proutot et Alexandre Devecchio. Merci à mon équipe également, Capucine Patouillet. Christopher Filoc, Guillaume Zorga, demain, même endroit, même heure. Et notez que demain à 10h, c'est le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Elle reçoit le patron du Parti communiste, Fabien Roussel.